vous allez entendre un message prêché par William Marion Branham. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Merci beaucoup, Frère Neville. Bonsoir, mes précieux amis. Je suis si heureux d'être à nouveau ce soir dans le service du Seigneur notre Dieu. Celui-ci est un... C'est ça. Oh oui. C'est bien. Je vous ai gardé si longtemps ce matin que je sens qu'il faudrait que je me dépêche ce soir. Oh, comme c'était terrible que vous ayez à rester debout. Et c'est la même chose ce soir. Mais ce ne sera pas long avant que nous ayons de la place pour vous, voyez-vous, où toute l'Église sera terminée. Nous ne projetons pas de rester trop longtemps ce soir, mais demain soir, nous pensons rester un certain temps. Si quelqu'un parmi vous peut venir demain soir, eh bien, nous nous attendons à avoir un temps béni dans le Seigneur. Il y aura des hommes remarquables ici demain soir. Nous passerons tous un bon moment. Il y a plusieurs gens ici qui vous disent que vous êtes toujours pressés et ce soir, nous voulons que vous preniez demain soir de 7 à midi. C'est ce que l'audience demande. Nous allons servir la communion à minuit demain soir. Je suis certain que vous aurez du plaisir à y participer. Pendant que le reste du monde fait la noce, crie, tire des coups de feu, bois et ainsi de suite, nous nous inclinerons respectueusement devant Dieu. Nous prendrons la communion et nous commencerons l'année en prenant l'engagement, en consacrant nos cœurs à Dieu. Il y aura de très bons orateurs ici demain soir, certainement. Il y a un frère de Georgie est ici, frère Palmer, un merveilleux orateur, frère Junior Jackson sera ici demain soir, frère Beeler, frère Neville, oh là là, et d'autres encore. Les hommes de Dieu très bien seront ici, frère Willard Collins et tous ces frères qui nous ont donné de si grands messages, et peut-être d'autres entreront en passant. Ainsi, nous attendons à avoir un temps très béni demain soir. Ma femme a dit, ne dis surtout pas cela, mais je dois le dire de toute façon. Je regrette d'avoir dit ce matin « Empire » au lieu de dire « Empire ». Billy, qui est assis là derrière, a dit « Le voilà parti ». J'ai dit « The Empire », il doit y avoir un « Empire ». Je voulais dire un « Empire ». Je suis comme ils disent à propos du Hollandais. Vous savez, ne me prenez pas pour ce que je dis, mais pour ce que je veux dire. Alors j'ai dit, je pense qu'ils me comprennent après toutes ces années. Vous savez, cela fait 30 ans que je me tiens derrière cette chaire ici, 30 ans dans ce tabernacle. Vous devriez me connaître depuis le temps, n'est-ce pas? Oh là là, mon instruction est certainement limitée. Je ne peux pas parler, mais pour le Seigneur, je fais un bruit véridique. Frère, je crois que c'était le docteur Lamza de la Bible, Lamza, dans la traduction, qui disait, un jour je parlais et je ne savais pas qu'il était là. Il vint me voir et il me parla de l'Urim Thummim. Et alors qu'il parlait de cette lumière, il me dit, « Qu'est-ce qui arrive à ces gens d'aujourd'hui? » Et je dis, il ajouta, « La raison pour laquelle les gens, les traducteurs, ne purent pas traduire la Bible correctement est que ceux-ci essayèrent de traduire en haut yiddish alors que Jésus parlait le langage commun, tel que le parlaient les gens de la rue. » Vous savez, il y a un passage dans l'Évangile de Luc qui dit « Les gens simples l'écoutaient avec plaisir. Ils parlaient dans leur langage. J'espère qu'il en est encore ainsi. » Nous sommes heureux d'avoir le Seigneur. Maintenant, je sais, je vois ces dames debout tout autour. Il est déjà dommage de voir des hommes debout à plus forte raison lorsque les jeunes filles, des jeunes garçons et des dames ainsi que des petits-enfants doivent se tenir contre ces parois. Nous n'avons pas un nombre de sièges suffisant, alors nous prions que la prochaine fois que nous aurons des rencontres après cette semaine, après cette fois-ci, vous savez, la prochaine chose prévue, autant que nous le sachions, ce sont ces sept sceaux. Et Dieu voulant, nous commencerons avec cela aussitôt que l'Église sera terminée ou construite pour que nous puissions entrer ici. Nous aurons une reconsécration et peut-être de 1 à 2, voire 3 semaines consécutives de réunion pour les 7 sceaux. Nous attendons donc à ce que ce soit alors un temps béni. Et à vous tous qui venez de l'extérieur, nous vous enverrons des cartes, peut-être une semaine ou deux à l'avance, vous informant de la date exacte. D'après ce que Billy a dit ce soir, j'ai cru comprendre que l'entrepreneur aurait terminé le 10 février. Eh bien, s'il a terminé le 10, nous commencerons alors vers le 15. Aussitôt qu'ils auront fini, nous commencerons tout de suite avec cela. Notre vieille sœur Kidd, qui m'a téléphoné il y a un moment, était presque en pleurs. Elle a dit, « Frère Branham, nous avons essayé par tous les moyens de mettre en marche cette vieille voiture, mais nous n'avons pas réussi. » Alors elle a dit, « Priez afin qu'elle parte et je viendrai demain. » Elle a ajouté, « Je me demande si je pourrais trouver un endroit où loger. » J'ai dit, « Ne vous inquiétez pas, nous aurons une chambre pour vous, sœur Kidd, aussitôt que vous serez ici. » Elle a dit, « Soyez bénis. » Elle a ajouté, « Vous savez, si vous avez des services jusqu'à minuit, je ne veux pas sortir à minuit. » Vous savez, elle et frère Kidd ont à peu près 85 ans chacun. Ils sont toujours dans le ministère. Vous savez ce qu'ils font? Ils se sont pas créés un enregistreur. Ils prennent mes messages et ils vont d'un hôpital à l'autre, d'une maison à l'autre. Ils font passer les bandes. Voilà ce que l'on peut appeler de ne pas abandonner ou ne pas prendre sa retraite. C'est plutôt garder la foi jusqu'au bout et mourir l'épée à la main. C'est ainsi qu'il faut partir. C'est de cette façon que je veux faire. Puis elle dit, vous savez, si je sors sur ces grandes routes le soir à minuit ou après minuit, vous essayez de rentrer chez moi et que je vois tous ces diables enivrés qui circulent en ayant bu, ces démons qui vont et viennent, je mourrai de peur. Frère Pat, elle est sûrement ce petit être. Combien parmi vous connaissent Sœur Kidd? C'est une personne bien pieuse. Pensez seulement, des années avant que je naisse, et je suis un vieil homme, elle était là-haut dans ces montagnes, elle et frère Kidd, elle lavait toute la journée sur une planche à laver pour obtenir 60 ou 80 centimes pour sa lessive, afin que pouvoir l'envoyer ce soir-là prêcher quelque part. Par exemple, dans une de ces mines de charbon, là-haut dans le Kentucky, où quelqu'un devait vous protéger avec un fusil pendant que vous gravissiez la colline, où vous alliez prêcher. Oh là là, alors je pense, dois-je être transporté à la maison au ciel sur un lit d'aisance garni de fleurs? Alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix et naviguer à travers des mers de sang, je dois combattre si je veux régner. Augmente mon courage, Seigneur, et je désire son soutien par sa parole. C'est ce que je désire ce soir. Maintenant, je suppose que les enregistreurs fonctionnent. Oh oui, excusez-moi. Une jeune sœur avait un bébé ici ce matin qu'elle voulait présenter. Je lui ai dit que nous le ferions sûrement ce soir. Maintenant, demain soir, nous aurons la présentation de bébé, un service de guérison et tout ce qu'il sera possible de faire. Nous aurons amplement de temps. Et je suppose qu'il y a des gens qui sont venus de très loin et qui étaient ici ce matin pour un entretien privé ou pour quelque chose. Ils devraient se retrouver là-bas ce matin et Billy a dû les faire attendre jusqu'à ce soir. Il ne les a pas trouvés nulle part ce soir, voyez? Si vous êtes là, sœur, je suis là depuis un bon bout de temps à attendre, voir s'ils ne trouveraient pas la dame. Elles étaient deux, je crois, qui devaient être en entrevue privée de l'extérieur du pays. Alors, nous avons confiance que si vous avez manqué, je pourrai vous rencontrer aussi vite que je le peux, peut-être demain soir, lorsque je rentrerai. Maintenant, je crois que c'est la dame qui vient avec le petit bébé avec la veste bleue. Veste, médaille, je ne voulais pas dire ça, chérie, peu importe ce que cela est. On dirait une petite robe, une veste. Combien savent ce qu'est une veste? Bien sûr. C'est une vieille veste pour moi, donc, car c'est un petit bébé de Dallas. Oh là là, c'est très bien, frère. Pourriez-vous venir ici? Excusez-moi. Eh bien, j'aime bien ce petit ruban que vous avez mis là. Quel est son nom? Rebecca Lynn. L-Y-N. Et quel est ton nom de famille maintenant? Staten. Rebecca Lynn Staten. Est-ce exact? Puis-je la prendre? Je sais que c'est dur de prêter son enfant comme ça, n'est-ce pas, mignon? Rebecca Lynn Staten. Cette famille a traversé beaucoup de choses. Cette petite jeune femme ici présente et son mari, tout récemment, ont été sauvés et portés à la connaissance du Seigneur. Et maintenant, dans leur union, Dieu a donné cette belle petite Rebecca et il la porte au Seigneur. Or, beaucoup de gens, ils appellent cela bébé, baptême de bébé. Dans l'Église méthodiste et beaucoup d'autres, ils les arrosent d'eau comme quand ils sont bébés. Maintenant, c'est très bien en ce qui me concerne. Mais nous essayons toujours de rester exactement avec ce que la Bible dit de faire. Et dans la Bible, il n'y a jamais eu, non, rien de tel que de baptiser un bébé. Nulle part dans l'histoire, jusqu'à l'Église catholique primitive, à notre connaissance qui remonte au Concile de Nicée. C'est seulement la façon de dire « Amen ». Ça, vous voyez. Vous devez avoir l'interprétation. Ainsi, dans la Bible, ils amenèrent les petits-enfants à Jésus afin qu'il les bénit. Il posa ses mains sur eux et les bénit. Et ça continue de faire ça. Maintenant, inclinons la tête. Notre Père Céleste, cette jeune femme et ce jeune homme viennent ce soir avec cette belle petite Rebecca qui leur a été donnée à leur charge pour susciter l'admonition de Dieu. Et il la porte ce soir pour la présenter au Seigneur. Et quand la mère l'a transférée de ses bras vers les miens, alors je transfère cette petite Rebecca de mes bras vers toi. Dieu soit avec elle et bénis-la. Dieu bénit son père et sa mère. Puissent-ils tous vivre une longue vie loyale et, s'il est possible, voir la venue du Seigneur Jésus. Que cet enfant grandisse dans la connaissance du Seigneur et que s'il y a un lendemain, qu'elle soit un grand témoignage de toi. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, si tu étais ici sur terre, ces femmes et ces hommes te ramèneraient leurs enfants. Mais nous, les ministres de l'Évangile, nous sommes tes représentants. Ainsi, nous te remettons cet enfant pour une vie de service dans ton royaume. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, petite Rebecca. Quelle gentille petite chose. Que Dieu vous bénisse tous les deux, ainsi que le bébé, pour vous donner une vie longue et heureuse au service de Dieu. Je ne sais pas si je suis assez fort. C'est tout un garçon. Quel est son nom? Stanley? Stanley Victor. Cleveland. Cleveland. Le petit Stanley, quel joli petit nom et quel gentil petit garçon. Eh bien, je suppose, regarde par ici, Stan. C'est un bon garçon. Alors, vous savez, on ne pratique pas cela. On ne fait que le faire, vous savez, il n'y a rien de formel là-dedans. C'est un gentil petit bonhomme. J'ai oublié le nom de famille, je ne pense pas que je le prononce bien. Cleveland. Très bien. Inclinons la tête maintenant. Père Céleste, ce couple amène ce petit bébé, le petit Stanley Cleveland, pour être consacré au Seigneur Jésus. Et en tant que pasteur ici de l'Église, et moi, nous nous tenons ensemble dans l'unité, dans les œuvres du Seigneur. Nous te remettons cet enfant pour une vie de service. Tu l'as donné à la mère et au père. Et maintenant, il me le donne à moi, dans mes bras, et je le transfère de mes bras au tien. Dieu bénisse son père et sa mère, bénis le petit garçon, et qu'ils vivent tous une longue et heureuse vie de service pour toi. Que l'enfant soit élevé dans l'abdomen de Dieu pour le servir, le craindre, l'aimer tous les jours de sa vie. Maintenant, ils t'ont amené des enfants pour que tu les bénisses. Et nous, avec nos mains sur l'enfant, nous le bénissons. Au nom du Seigneur. Et qu'il vive une longue et heureuse vie de santé et de force à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, petit Stanley. Vous avez un gentil garçon. Je vais demander maintenant une petite faveur aux petits-enfants et aux adolescents. Je sais que c'est dur. Vous ne pouvez pas vous tenir tranquille très longtemps parce que vos membres s'engourdissent. Mais j'aborde quelque chose ce soir que je n'ai jamais abordé auparavant. Je vais parler de quelque chose dont je n'avais jamais pensé parler. C'est la raison pour laquelle ce matin, je n'ai pas voulu prendre ce moment avant le message. Et je n'ai pas encore fini de parler de mon absolu. Je pense que jamais je ne finirai. J'espère ne jamais finir. Il est si merveilleux. Mais ce soir, je vais parler de quelque chose que je ne connais pas. C'est quelque chose pour un serviteur de dire qu'il parlera de quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais je m'aventure là-dedans au mieux de ma connaissance afin que cette Église puisse comprendre. Je ne voudrais sous aucun prétexte retenir quelque chose qui vous serait profitable. Ensuite, cette bande, je suppose que les frères sont en train d'enregistrer, et si, par hasard, vous obtenez cette bande, quiconque écoute cette bande, souvenez-vous, si quelque chose vous intrigue, ne le dites pas, à moins que ce ne soit sur la bande. Ne dites rien de contraire à ce qu'il y a sur la bande. Tellement de personnes m'écrivent au sujet de la semence du serpent et disent que j'ai dit telle ou telle chose. Je vais chercher la bande et je la réécoute et je vois que je ne l'ai pas dit de cette façon. Vous voyez, les gens jugent mal certaines choses. Vous savez, un jour, après sa résurrection, Jésus marchait sur le rivage avec les apôtres et Jean s'appuyait sur sa poitrine. Et ils demandèrent, « Qu'arrivera-t-il à cet homme? » Jésus a dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Et là-dessus, le bruit courut que Jean allait vivre pour voir Jésus revenir. L'Écriture dit, « Cependant, Jésus ne l'avait pas dit ainsi. » Vous voyez, il n'a jamais dit cela, il a simplement dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Il n'a jamais dit qu'il demeurerait, mais il est si facile de comprendre mal. Maintenant, ce n'est pas que je condamne quelqu'un de le faire, parce que je le fais moi-même. Tout le monde le fait. Si les apôtres qui ont marché avec notre Seigneur le comprirent mal, et ils ne le comprirent jamais clairement, juste à la fin, il dit, « Maintenant, nous comprenons. Maintenant, nous croyons et nous sommes convaincus que personne n'a à te dire quoi que ce soit, car tu sais toute chose. » Jésus leur répondit, « Croyez-vous maintenant? » Voyez-vous? Est-ce que finalement, après tout ce temps, est-ce que vous avez finalement compris cela pour que vous croyez? C'est simplement humain et nous sommes tous humains. Nous allons mal comprendre certaines choses, mais si cela est un peu confus pour vous, repassez la bande. Écoutez alors attentivement. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Maintenant, vous, les petits, si vous voulez bien retenir vos « Amen », vous, les enfants, attendez juste un petit moment, car je veux que cela soit bien compris, parce qu'il y en aura beaucoup qui n'auront pas la bande. Alors, je veux que vous soyez certains de le comprendre. Pendant les 35 à 40 minutes qui vont suivre, abordons cela avec le plus de respect possible, parce que c'est un moment extraordinaire pour moi. C'est ce qui s'est produit quelque chose, et je ne sais que faire. Je suis dans la situation la plus difficile que j'ai jamais connue au cours de mon ministère. Alors, inclinons maintenant nos têtes avant d'aborder la parole. Père céleste, il y a quelque temps, j'ai prêché sur le sujet intitulé « Présumer ». Présumer, c'est s'aventurer sans autorité. Peut-être ce soir, Seigneur, j'ai pris sur moi d'interpréter quelque chose aux gens sans en avoir eu une vision. Alors, Seigneur, reprends-moi où je dois être repris. Ferme ma bouche, Seigneur. Tu as fermé la gueule du lion qui était dans la fosse avec Daniel, afin qu'il ne lui fasse aucun mal. Seigneur, je prie que si je devais interpréter quelque chose faussement, tu fermes ma bouche comme tu en as toujours le pouvoir. Mais si c'est la vérité, alors, Seigneur, bénis-la et répands-la. Tu connais la situation et ce qui est sur le point d'arriver. C'est pourquoi je viens à cette chair, même en cette dernière heure, pour essayer d'interpréter ces choses. Je te prie de nous aider. Bénis cette petite église, ce groupe de gens qui se réunit sous ce toit et séjourne ici avec nous, dans cette ville, venant de nombreux États. Oh, quand les ombres du soir tombent, nous sommes si heureux d'avoir un endroit où venir. Quand le monde est si bouleversé et ne sait où il en est, nous sommes heureux de savoir que le nom du Seigneur est une tour puissante et les justes y entrent et sont en sécurité. Ce n'est pas le fait de beaucoup de mots, mais d'une révélation. Alors nous te prions, Père, comme les lumières du soir viennent au coucher du soleil. Nous croyons que c'est le temps dans lequel nous vivons, le coucher du soleil. Nous te remercions très solennellement, Seigneur, de tout notre cœur pour les choses que tu as faites pour nous. Seigneur, à travers l'âge, je te remercie d'avoir permis les visions que tu as données, chacune d'elles si parfaitement. Et chaque interprétation de rêve a été exactement de cette façon. Alors nous savons que cela ne pouvait être que toi, Seigneur, parce que nous ne sommes des mortels, tous nés dans le péché. Il n'y a rien de bon en nous. Mais de penser que tu pouvais prendre une telle chose que l'être humain et le laver dans l'eau de la parole et par le sang de Christ, et étendre cette main de telle façon qu'une personne n'utilise plus sa propre pensée, mais laisse entrer la pensée de Christ qui connaît toutes choses. Laisse-la entrer et parler et utiliser un tabernacle. Merci, Père. Maintenant, nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ce petit groupe ce soir en ton nom. Nous bénissons le pasteur, frère Neville, le brave serviteur de Dieu. Nous bénissons les diacres, les administrateurs et chaque membre du corps de Christ, à la fois ici et autour du monde, dans le nom du Seigneur Jésus. Oh, comme nous voyons cette ombre noire et horrible tomber sur la face du christianisme, nous savons que le temps est proche. Il y aura un enlèvement et l'Église sera enlevée. Seigneur, laisse-nous continuer à avancer, regardant au chef et consommateur Christ. Accorde-le, Seigneur, et comme nous avançons maintenant dans le nom du Seigneur Jésus, pour aborder ces choses qui ont été placées sur nos cœurs, nous te prions d'être avec nous et de nous aider. Que la gloire te revienne, Seigneur, car nous en remettons à toi avec ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si vous avez un crayon et du papier, j'aimerais que vous preniez quelques notes ou ce que vous voudrez. Simplement, tenez-le prêt. Également, vous qui écoutez la bande, afin que vous puissiez en tout temps, si vous le désirez, noter quelques références bibliques, parce que je crois que c'est l'Écriture qui compte. Maintenant, nous voulons lire un texte ce soir ou faire une lecture dans l'Écriture, dans le livre de la Révélation de Jésus-Christ. Je crois que c'est la Révélation de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans le livre. Et toute autre révélation qui serait contraire à cette révélation serait fausse. Je crois que cela supporterait d'être répété. Toute révélation qui ne sera pas en accord avec cette révélation et n'amènera pas celle-ci à la lumière est une fausse révélation. Ce doit être scriptural. Dans le 10e chapitre du livre de la Révélation de Jésus-Christ, j'aimerais lire les premiers versets, les 7 premiers versets, 1 à 7. Maintenant, écoutez attentivement et priez pour moi. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et mon texte, si je devais l'appeler ainsi, ce soir, est « Monsieur, est-ce le signe de la fin? » Nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux. pour l'Église, mais un temps horrible pour l'incrédule. Nous vivons dans un des temps les plus dangereux depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre, à aucune époque, n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. C'est la fin. C'est écrit dans les cieux. C'est écrit sur la face de la terre. C'est écrit dans chaque journal. C'est la fin. Si vous pouvez lire l'Écriture. Les prophètes ont vécu dans un temps où, pour une nation, l'Écriture était sur le mur. Mais nous vivons au moment où l'Écriture est sur le mur pour le temps. Toutes les nations, la terre, tout le temps est à la fin. Alors nous devons sonder les Écritures pour trouver l'heure dans laquelle nous vivons. Un vrai prophète de Dieu reviendra toujours aux Écritures. Par conséquent, il est certain qu'il en sera ainsi. Dans l'Ancien Testament, quand les prophètes disaient quelque chose, il y avait toujours quelque part un prophète avec la parole, qui restait avec la parole. Il attendait que Dieu lui donne ses visions. Si sa vision était contraire à la parole, alors sa vision était fausse. C'est la façon que Dieu utilise pour apporter sa parole à son peuple. Pouvez-vous m'entendre tout au fond? Très bien. Je ne sais pas très bien où commencer. Ce fut un grand privilège pour moi de savoir que ce tabernacle fut ma première église. C'est une chose glorieuse. Je n'oublierai jamais, même si Jésus tarde et que je vive des centaines d'années, je me souviendrai du jour où j'ai posé la pierre angulaire là au coin et la vision qu'il me donna ce matin-là de ce tabernacle. Vous vous en souvenez tous, c'est écrit dans les livres. Ceci s'est accompli tout à fait à la lettre. Pas la moindre chose n'a manqué. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qu'il ait dit durant toutes ces années de ma vie et que j'ai annoncé aux gens qui ne se soit accompli. De nombreuses personnes sont venues avec des rêves qu'il m'a laissés, par sa grâce, interpréter aux gens. Beaucoup sont venus avec des rêves et des problèmes que j'étais incapable d'interpréter. Mais je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes les réponses. J'ai essayé d'être honnête et de vous dire ce qu'était la vérité, et je ne pouvais vous le dire que comme lui me le disait. Puis comme cela me venait, je pouvais le dire. Je veux vous avertir. Au jour dans lequel nous vivons, il y a beaucoup, je ne dis rien contre quiconque, mais quand vous voyez une personne qui a la réponse à tout, cela est contraire à la parole. Jésus a dit, il y avait beaucoup de lépreux du temps d'Élie, mais un seul fut guéri. Durant les nombreuses années, 80 ou plus que la vie d'Élie, un lépreux fut guéri. Il y avait beaucoup de veuves du temps d'Élisée, mais il ne fut envoyé que vers une. Nous remarquons qu'il y a de nombreuses choses que Dieu fait qu'il ne se révèle pas à ses serviteurs. Et aucun serviteur n'est plus grand que son Seigneur. Et aussi, Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Il est Dieu. Quand un serviteur en arrive au point où il essaie de prendre la place de Dieu, alors Dieu prend sa vie et l'envoie ailleurs, ou quelque chose ainsi. Nous devons nous souvenir de cela. Maintenant, dans ces visions et interprétations, je ne peux pas donner l'interprétation d'un rêve avant que je voie exactement en vision quel fut le rêve. Beaucoup parmi vous savent que vous m'avez raconté votre rêve et même ne l'avez pas raconté au complet. Quand je voyais à nouveau le rêve, je me retournais et vous disais que vous aviez omis de dire de nombreuses choses. Et ensuite, je vous disais ce qui manquait. Vous savez que c'est vrai? Si c'est vrai, dites Amen. Les choses que vous ne m'avez pas dites. Par conséquent, vous voyez, c'est comme Nebuchadnezzar a dit. Si vous ne pouvez pas me dire ce que j'ai rêvé, alors comment saurais-je que vous en avez l'interprétation? Mais toutes ces impressions, nous ne devons pas les prendre et dire « Ainsi dit le Seigneur ». Nous ne devons pas faire cela. Nous devons avoir une voix directe, une réponse de Dieu, avant que nous puissions dire que c'est Dieu. Pas une impression, pas une sensation. Peu importe combien cela palpite, vous pouvez dire, par exemple, « Je crois que ça pourrait être ainsi ». Mais quand vous prononcez « Ainsi dit le Seigneur », ce n'est pas vous. Observez sur l'estrade. L'avez-vous déjà vu faillir? « Ainsi dit le Seigneur est parfait. Il n'a jamais failli. Aussi longtemps que c'est « Ainsi dit le Seigneur », cela ne peut pas faillir. Mais jusqu'à présent, il m'a protégé parce que je me suis attendu à lui. Je n'ai pas essayé de rechercher la popularité ou la vaine gloire des hommes. J'ai essayé de mon mieux de vivre humblement et vivre le genre de vie que je pense un chrétien devrait vivre. Je n'ai pas été capable de le faire par moi-même, mais lui l'a fait jusqu'à ce jour. Comme je dis, il est celui qui m'a conduit. Il y aura encore bien des choses à dire, mais cela prendrait trop de temps. Vous êtes tous au courant de ces choses. La seule raison pour laquelle je vous ai fait dire Amen il y a un moment, vous qui m'avez raconté vos rêves, puis je suis venu vous dire que vous aviez omis, c'est parce que ce message est enregistré. Des hommes de toutes nations entendront ceci. Et quand ils entendront ce « Amen », alors ils sauront qu'il y a la voix de gens qui ont suivi ce ministère et qui n'iraient pas faire quelque chose de mal à dire « Amen » à quelque chose qui est faux. « Amen » signifie « Ainsi soit-il ». C'est un signe d'approbation. Pendant toute ma vie, depuis mon enfance, quelque chose m'a tracassé. J'ai eu une vie très étrange et difficile à comprendre. Même ma femme se gratte la tête et dit, « Bill, je ne crois pas que quelqu'un puisse te comprendre. » Je lui réponds, « Je ne me comprends pas moi-même. » Parce que je me suis livré à Christ il y a de nombreuses années. C'est lui qui me conduit. Je n'essaie pas de comprendre au mieux de ma connaissance. Je vais simplement où il me conduit. Je suis reconnaissant d'avoir une épouse et des enfants merveilleux qui ont la conviction que je ne leur dirai jamais quelque chose de faux et qui croient. Chaque fois que vous leur dites quoi que ce soit, ils s'en tiennent à cela, ils savent que je ne leur dirai rien de faux. Et alors dirais-je quelque chose de faux à l'un des enfants de Dieu? Non, pas volontairement, non, monsieur. Dieu veut que ses enfants aient une bonne formation. Soyez honnête et vrai avec eux, et je crois qu'il bénira cela. Or, tout au long du voyage, des choses sont arrivées que je ne pouvais pas comprendre. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi, lorsque j'étais un petit garçon, j'avais ces visions. J'avais des visions et j'annonçais à mes parents des choses qui allaient arriver. Ils pensaient que j'étais émotif, mais la chose étrange est que cela arrivait comme annoncé. Vous direz, était-ce avant votre conversion? Oui. Les dons et les appels sont sans repentir, dit la Bible. Vous êtes né dans ce monde pour une certaine raison. Votre repentance n'amène pas les dons, ils vous sont prédestinés. Or, tout au long de la route, quand j'étais un petit garçon, je n'étais pas satisfait dans la région où j'habitais. Je ne sais pourquoi, mais je désirais ardemment aller à l'ouest. On m'a opéré quand j'étais un jeune garçon après que j'ai reçu ce coup de fusil. Lorsque je suis revenu à moi après la première anesthésie, je pensais que j'étais dans les tourments, que je descendais. L'éther m'avait endormi. Je pense que je suis resté 8 heures inconscient. Ils étaient inquiets de savoir comment ils allaient me réanimer. Ils firent une grosse opération sans pénicilline ni transfusion sanguine. Les deux jambes avaient été presque sectionnées par un coup de feu, fusil, qu'un de mes petits camarades avait laissé partir. Environ 7 mois plus tard, j'eus une autre anesthésie et quand je suis sorti, je pensais que je me trouvais dans les grandes prairies de l'Ouest. Une grande croix dorée apparaissait dans le ciel et la gloire de Dieu s'en dégageait, tandis que je me tenais là comme ceci. Quand la lumière que vous voyez ce soir en photographie, la recherche scientifique a prouvé que c'était un être surnaturel, selon moi, c'était la même lumière que celle qui frappa Paul. C'était la même lumière que celle qui conduisait les enfants d'Israël pendant la nuit. Avez-vous remarqué ici cet ange? Il était enveloppé d'une nuée. Vous voyez, il était une nuée pendant le jour. Or, cette même lumière, les gens qui ne comprenaient pas pensaient premièrement que c'était faux, que c'était simplement moi qui le disais. Mais le Saint-Esprit fit en sorte qu'il y alla des instruments scientifiques et des gens qui la photographient plusieurs fois pour servir de confirmation. J'ai dit, je vois une personne recouverte par l'ombre de la mort, une ombre noire la recouvrait. Il y a quelques semaines, alors que je me trouvais dans une certaine ville, et lorsque nous prêchions, vous n'êtes pas censé prendre des photos, vous savez, pendant qu'il prêche. Et lorsqu'il est arrivé la même chose que lorsque celle-ci fut prise, mais quelqu'un avait un appareil de photo, et je disais à une dame qui était assise là, elle m'était inconnue, j'étais à Southard Pond, il y a une ombre sur certaines demoiselles. C'était une dame que je n'avais jamais vue de ma vie. Vous revenez de chez le docteur et vous avez 2 cancers, un sur chaque sein, et vous êtes condamné. Vous êtes recouverte d'un capuchon de mort noir. Quelque chose dit à une sœur qui était assise là, tout près, qui avait un appareil photo avec un flash, « Prends la photo! » Elle n'a pas voulu le faire, et de nouveau, « Prends la photo! » Mais elle se retenait toujours. Puis cela revint, elle saisit alors l'appareil et prit la photo, et la voilà scientifiquement. Elle est sur le panneau d'affichage, une ombre noire en forme de capuchon. Puis lorsque la femme crut et qu'on eut prié, une autre photo fut prise à ce moment-là et tout avait disparu. J'ai dit, l'ombre a disparu, voyez-vous? La dame est en vie par la grâce de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Si vous dites la vérité, s'il se peut qu'on se moque de vous pendant un certain temps, qu'on vous comprenne mal, mais Dieu confirmera que c'est la vérité. Si vous restez simplement sous vos positions, simplement tenez bon. Cela prendra peut-être des années, comme pour Abraham et d'autres, mais il confirmera toujours que c'est la vérité. Que cet ange-là, je suppose qu'à part ma femme, il y a ici ce soir des gens qui étaient présents, il y a 30 ans en arrière lorsque cela est descendu. Y a-t-il quelqu'un dans l'auditoire maintenant qui se trouvait là lorsque l'ange du Seigneur est descendu sur la rivière la première fois devant les gens? Alors, levez la main. Oui, les voilà. Je vois que Mme Wilson a levé la main, elle se trouvait là, ma femme se trouvait là. Je ne sais pas qui sont les autres qui se trouvaient là sur la rive lorsque, devant beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je baptisais un jour à 2 heures de l'après-midi et que, et directement hors des cieux des reins, comme il y avait des semaines qu'il n'avait pas plu, il est venu dans un grondement et a dit, Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message comme précurseur de la seconde venue de Christ. Beaucoup d'hommes, d'hommes d'affaires de la ville, se tenaient là sur la rive et me demandaient ce que cela signifiait. Je dis, ce n'était pas pour moi, c'est pour vous, moi je crois. Et il s'en alla. Si vous vous souvenez, lorsque cet ange est parti, il est monté en direction de l'ouest. Il passa juste au-dessus du sommet du pont et il alla vers l'ouest. Plus tard, je rencontrai un astronome, ce qui est un mage. Ils me parlèrent d'étoiles qui s'étaient rapprochées, formant ainsi une constellation, et que les mages à Babylone virent en direction de la Palestine ces trois étoiles dans une constellation. Vous m'avez entendu le raconter de nombreuses fois. Savez-vous que ces dernières semaines, il a été prouvé que c'était la vérité? Frère Softman, où que vous soyez, avez-vous ce journal avec vous ce soir? C'est dans le journal, sur une feuille du journal du dimanche du 9 décembre. Un journaliste est allé là-bas, ils ont déterré toutes ces choses, et il se trouve que nous vivons en fait. Maintenant, il est prouvé que cette année qui vient sera 1970. Une différence de 7 ans révélée par des pierres qui ont été déterrées, prouvant que ce que nous avons maintenant est faux. C'est plus tard que vous pensez. Je ne suis pas arrivé à voir Frère Fred. Frère Sotman, êtes-vous ici? Avez-vous le journal avec vous, Frère Sotman? Il a le journal. Peut-être que demain soir, je vous le ferai lire. Nous n'avons pas le temps ce soir. Ainsi, vous pouvez voir et observer exactement ces mages juifs là-bas à Babylone qui étudiaient les étoiles, virent ces étoiles former une constellation. Et à ce moment-là, ils surent que le Messie était sur la terre. Les voilà qui entrent dans Jérusalem en disant, un voyage de 2 ans. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils parcoururent ainsi les rues et, oh, Israël se moqua d'eux. Cette bande de fanatiques, ils ne surent jamais rien à ce sujet. Mais le Messie était sur la terre. Et maintenant, vous connaissez le reste de l'histoire, ce qu'ils dirent. Nous le lirons demain soir. Maintenant, pour en revenir aux visions, celles-ci ne faillissent pas parce qu'elles viennent de Dieu. Et tout au long du voyage, cela a été quelque chose qui m'a poursuivi. Puis lorsque ce mage me dit ces choses, alors que je n'étais qu'un garçon, je faisais le garde-chasse ou que je crois que c'était avant cela, lorsqu'il me parla de cela, je fus effrayé parce que j'avais peur des mages. Mais plus tard, j'ai découvert que les mages de la Bible étaient justes parce que Dieu déclare cela dans le ciel avant de le déclarer sur la terre, observant ses corps célestes. Pierre a dit, « Dieu ne fait exception de personne parmi toutes les nations, mais ceux qui, dans toutes les nations, le craignent, ils les acceptent. » Nous découvrons alors, j'ai essayé d'abandonner cette idée, mais oh, cela prendrait des heures pour en parler et montrer comment cela allait constamment dans cette direction, mais je craignais cela. Ce mage me dit, « Tu n'aurais jamais de succès dans l'Est. » Il ajouta, « Tu es né sous un signe. » Ce signe, cette constellation, lorsqu'elles se croisèrent le jour de ta naissance, elle se trouvait à l'ouest, et tu dois aller à l'ouest. Je répondis, n'y comptez pas. Je n'ai rien à faire avec cela. Cependant, durant tout ce temps-là, cela ne l'a pas enlevé de mon cœur. Lorsque j'étais là-bas ce soir-là à cause de ces visions, je ne pouvais comprendre. Mes frères baptistes me dirent que c'était du diable. Mais quand cet ange apparut, il justifia absolument toute la chose par l'Écriture. Il dit que ce qui arriverait alors, lorsque le sacrificateur argumentait au sujet des différentes choses, ne sachant pas quel genre de veste ou d'habit qu'il devrait porter alors qu'il argumentait à propos de leurs différences, les mages suivaient l'étoile vers le Christ. Alors que les prédicateurs disaient que Jésus était un imposteur, un Belzébul, un démon, dit, Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Pourquoi viens-tu nous montrer, tourmenter avant le temps? Quand Paul et Silas vinrent pour prêcher l'Évangile, une petite diseuse de Bonaventure qui était assise dans la rue, et les prédicateurs de cette région disaient, « Ces hommes sont des imposteurs. Ils déchirent nos églises et bouleversent le monde avec leur corruption. » Mais qu'est-il arrivé? Cette petite mage, cette petite diseuse de Bonaventure dit, « Ce sont des hommes de Dieu qui nous annoncent le chemin de la vie. » Paul réprimanda cet esprit en elle. Il n'avait pas besoin qu'on l'aide pour témoigner qui il était. Jésus leur a toujours dit de garder le silence. Mais cela montre pourtant que parfois les démons en savent davantage sur les choses de Dieu que les prédicateurs. Ils sont devenus si ecclésiastiquement liés. C'était ainsi dans la Bible. Et Dieu ne change pas. Un jour, il y a 5 ans, je roulais sur la route en revenant de chez Frère Norman. Je venais juste d'avoir une réunion là, et le Seigneur Dieu m'est apparu dans une vision. J'étais assis devant mon portail, ici chez moi. Il semblait faire mauvais temps. Beaucoup parmi vous se souviendront de la vision. Elle est écrite dans mon livre de vision. Je les inscris afin d'être sûr de ne pas les oublier. Dans cette vision, je vis que quelque chose avait traversé le chemin et qu'il y avait des pierres sur toute la surface de ma cour. Il y avait des machines à niveler sur tout le chemin et des arbres avaient été coupés et déracinés. Je me tournai pour entrer par le portail et il était complètement bloqué par des pierres. J'allais dire à l'homme, « Pourquoi est-ce ainsi? » Et il devint très hostile. Il me poussa en arrière et dit, « C'est ainsi avec vous, prédicateur. » J'ai dit, « Je vous demande seulement pourquoi vous faites ceci. Vous venez ici de mon côté de la rue. Pourquoi avez-vous fait ceci? » Il me frappa presque et me repoussa en arrière. Je pensais, je vais simplement lui dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et une voix se fit entendre disant, « Ne fais pas cela, tu es un serviteur de Dieu. » Je dis, « Très bien. » Je me retournai et à ma droite, devant le portail, se trouvait un vieux chariot bâché, comme ceux dont on se servait pour traverser la grande prairie. Vous savez ce que c'est, un chariot bâché auquel étaient attelés des chevaux, et à côté de la place du conducteur se trouvait ma femme. Je regardais en arrière et mes enfants étaient assis là. Je grimpai sur le chariot et dis à ma femme, « Chérie, j'ai supporté tout ce qui m'était possible. » Je saisis les rênes, tiré sur celle du cheval de tête et commencé à me diriger vers l'ouest. Une voix me dit, « Quand ceci arrivera, alors va à l'ouest. » Frère Wood est un entrepreneur ici dans notre église et aussi un administrateur. Combien se souviennent maintenant de la vision? Vous rappelez-vous lorsque je vous l'ai dit? Assurément. Elle est écrite. Je dis à Frère Wood, il a acheté de l'église cette parcelle qui est là entre deux. Il allait construire là une maison de pierre. Je dis, ne le faites pas, Frère Wood, parce qu'il ne vous donnera jamais l'argent que vous ayez mis. Peut-être cela fait des années, il y a 5 ans. Ils vont peut-être faire passer ce pont par ici. Cette pierre provenait probablement de ma cave qui avait été démolie, de mes allées qui se trouvaient là. Au lieu que ce soit des pierres, c'était des blocs de ciment. Et alors, ils vont le faire passer par là parce qu'ils ont dit dans le journal que c'est ce qu'ils essayaient de faire. Eh bien, il ne l'a pas construite. Finalement, une année ou deux plus tard, il décida de le faire passer de ce côté. Ainsi, la chose fut réglée et je l'oubliais. Maintenant, la chose étrange est arrivée il y a environ une année. Je tenais un soir des réunions dans l'église de Frère Junior Jackson. Il était assis là, un prédicateur méthodiste qui a reçu le Saint-Esprit, a été baptisé au nom de Jésus-Christ et qui est pasteur d'une de nos églises sœurs. Simplement pour vous montrer comment Dieu traite avec ses gens. Je dis ceci de tout mon cœur. Je ne connais pas une assemblée dans le monde entier une assemblée où je crois que l'Esprit de Dieu se trouve davantage que dans cette assemblée. Ils ont leurs différences. Ils ne sont assurément pas encore arrivés là où ils devraient être. Aucun de nous, mais ils sont aussi proches que n'importe qui d'autre que je connais. Maintenant, pour vous montrer, sachant ce qui allait arriver, Frère Jackson eut son songe. Il ne pouvait pas s'en défaire. J'étais en train de quitter son église et il ne pouvait pas supporter cela. Cela fait combien de temps, Frère Jackson? J'ai eu le songe en février 61. Il s'approcha de moi et me dit, « Il y a quelque chose sur mon cœur que je dois vous dire, Frère Branham. » J'ai dit, « Allez-y, Frère Jackson. » Il dit, « J'ai eu un songe. » Et c'était là. Je suis resté tranquille. J'ai écouté et observé. Il dit, « J'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline, où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du rocher. Il n'y avait pas d'herbe. L'eau en coulant avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres, et vous étiez là, en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Nous tous. Et voici comment il l'a raconté. Les frères de Géorgie et ceux d'ailleurs, nous nous tenions là, vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, « Vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air, quelque chose ressemblant à un levier ou à un pied de biche, n'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela, un pied de biche très effilé. » Et vous avez dit, « Comment vous l'avez fait? Je ne sais pas. » Vous avez frappé le sommet de cette montagne, l'avez coupé tout autour et vous en avez soulevé le capuchon. Elle était en forme de pyramide. Et vous avez complètement détaché le sommet. Or, c'était des mois avant que le message sur la pyramide fût prêché. Il dit, là-dessous se trouvait de la pierre blanche, du granit. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus. Venez regarder, observez ceci. C'est vrai. Car à la formation du monde, celui-ci fut formé avant que la lumière existe. Nous le savons tous, Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et alors, au commencement, il parla pour que la lumière vienne. Naturellement, là-dessous, dans l'âge de cette formation, la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. Il dit, regardez, là-dessus, la lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Lorsqu'ils furent tous montés, je leur dis d'observer cela, et ils vinrent tous regardez. Mais il dit que pendant qu'il regardait cela, il regardait du coin de l'œil, je crois que c'était ainsi, et m'a observé. Je me suis glissé de côté, j'ai commencé à me diriger vers l'ouest, vers le soleil couchant. Et je montais sur une colline et en redescendis, puis remontais sur une autre colline et en redescendis, tout en devenant toujours de plus en plus petit pour finalement disparaître complètement de sa vue. Il a dit qu'à ce moment-là, il dit alors, les frères se retournèrent un peu après. Il dit, a-t-il disparu? Où est-il allé? Et il dit que certains partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là et d'autres dans une autre encore, mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. Maintenant, remarquez l'interprétation du songe, alors que je ne lui ai jamais rien dit, et pas davantage aux autres, mais je dis oui, et mon cœur était ému. J'observais. Maintenant, l'écrit mystérieux, attendez, je vais le laisser de côté un moment. Il n'y a pas longtemps, Frère Beeler est généralement avec nous. Êtes-vous ici, Frère Beeler? Oui, là, au fond. Billy m'a dit, « Frère Beeler est complètement remué. Il a fait un étrange songe. » Je suis allé un soir chez Frère Beeler en allant faire des visites. Il m'a dit, « Frère Branham, j'ai fait un étrange songe. J'ai rêvé que je descendais une rivière en direction de l'ouest. Il y avait une route du côté gauche. et j'étais sur le côté gauche de la route me dirigeant vers l'ouest en train, semble-t-il, de courir après du bétail. Sur le côté droit, je remarquais tout à coup, après être arrivé là, que vous y étiez. Vous étiez en train de rassembler un grand troupeau de bétail. Il y avait là beaucoup de pâture. Puis vous avez pris ce bétail et vous lui avez fait commencer à remonter la rivière. Et semble-t-il, je dois lui avoir fait signe de la tête de surveiller ce bétail. Il dit, maintenant, ce sera facile pour ce bétail. Je sais qu'il y aura, il y a le moins de résistance. Mais Frère Branham veut qu'il reste de ce côté droit de cette rivière. Ainsi, je vais remonter cette route et les empêcher de traverser la rivière de ce côté et les garder de ce côté-là. Mais il remarqua que je n'ai pas continué à suivre le bétail, mais que j'allais en direction de l'ouest. Il dit, il doit être en train de rechercher des animaux égarés. À peine avait-il terminé de me raconter le songe que je le vis. Puis, remarquez, il dit qu'il devint un peu soupçonneux à mon sujet. Il alla donc regarder à nouveau. Il dit que je suis arrivé vers une montagne massive et que tout à coup, je disparus. Il se demanda ce qui n'allait pas. Il descendit et à côté de lui, il y avait une petite rivière qui se partageait sur la gauche. Je crois que c'est juste, Frère Beeler, oui. Il remarqua qu'à côté de moi, il y avait une terrible chute. Il pensa alors que j'étais peut-être tombé dans ces chutes et que j'avais péri. Puis il dit qu'il regarda tout autour et vit l'effet que produisaient ces chutes qui tombaient de ce côté. Elles faisaient cracher un puits artésien, mais l'eau ne retournait pas dans le sol. Il regarda de l'autre côté du petit ruisseau et il vit de petits animaux avec des oreilles arrondies. Il dit, je crois que j'en prendrai un. Il traversa. Il se mit à penser à moi. Il monta sur un petit monticule pour regarder de l'autre côté et voir s'il y avait une petite corniche étroite sur laquelle j'aurais pu marcher, mais il dit qu'il n'y avait rien. Il se fit du souci et il dit, « Qu'est-ce qui est arrivé à notre frère? » Je me demande ce qui est arrivé à Frère Branham. Lorsqu'il lui parle, il dit qu'il m'entendit parler. Je me tenais au sommet d'une montagne. Et je dis à Frère Beeler, l'interprétation d'un songe que je lui avais donné il n'y a pas longtemps, et je lui ai dit de s'attendre au Seigneur et qu'un jour, je le rencontrerai sur une île. Et ils étaient là. Maintenant, voici l'interprétation de ce songe. La rivière qui était large, c'était la rivière de la vie. Je me dirigeais là-dessus vers l'ouest, et lui aussi, parce qu'il était sur une route. Il courait le long de cette route, et de l'autre côté, il y avait beaucoup d'herbes, mais aussi beaucoup de fourrés, de buissons épineux et de taillis. Mais là-dedans, il y avait beaucoup d'herbes. C'est ainsi que nous cherchons le Seigneur et la nourriture du Seigneur à travers les difficultés. Rassembler le bétail, c'était cette église. Les garder de ce côté-là, en fait, le bétail choisira la route facile. Les dénominations, s'il le peut. La route représentait les dénominations. Je lui ai fait remonter la route pour qu'il veille à ce qu'il n'aille pas vers une dénomination. Le mur qu'il a vu, lequel était totalement infranchissable et qui m'empêchait d'aller à l'ouest, c'était cette affaire d'impôt avec le gouvernement. Personne ne peut comprendre comment je m'en suis sorti. C'était un mur qui m'arrêtait. Mais le Seigneur me fit passer à travers et je me retrouvai de l'autre côté. Je vous rencontrerai, Frère Beeler, sur l'île. Puis immédiatement après cela, Frère Roy Robinson, Frère Roy, êtes-vous ici ce soir? Oui, je crois. Que dites-vous? Là, sur le côté, il m'a appelé et il avait eu un songe. Il rêva que nous étions en train de rassembler du bétail. Maintenant, c'est le troisième, en train de rassembler du bétail. Il y avait de l'herbe jusqu'à leur poitrail, beaucoup de nourriture. Nous tous, frères, nous étions ensemble. Nous arrivâmes à un endroit où nous allions dîner. Frère Sorman se leva et dit, « Élie, le grand prophète, parlera depuis ici aujourd'hui à midi. » Puis lorsque nous eûmes tous dîné, chacun s'en alla et se demanda pourquoi il n'avait pas attendu pour entendre ce qui devait être dit. Maintenant, voyez-vous comment cela s'accorde exactement avec ce qu'a dit Frère Jackson? Voyez-vous comment cela joue exactement avec ce que Frère Beeler a dit? Personne n'attendit pour voir ce qui en était. Remarquez, immédiatement après cela, Sir Collins, êtes-vous ici, Sir Collins? Elle rêva qu'elle était ici à l'église et qu'il y allait y avoir une cérémonie de mariage. À ce moment-là, elle vit le marié entrer, il était parfait. Mais la mariée n'était pas tout à fait parfaite, pourtant c'était l'épouse. Or, c'est l'église. Il y avait comme un service de communion qui se déroulait ici, comme si un dîner était préparé. Cela la choqua un peu, parce que Frère Neville servait un dîner dans l'église, mais elle dit que c'était la meilleure nourriture qu'elle ait jamais vue. Elle avait tellement faim. Elle pensait peut-être que dans le rêve, il n'aurait pas dû le servir. Et elle et Frère Willard allaient se rendre au Ranch House pour manger. Et à ce moment-là, la lumière sur le côté droit s'éteignit. Maintenant, vous savez ce que c'est. Or, la nourriture, l'épouse n'est pas parfaite, mais l'époux est parfait. L'épouse n'est pas encore parfaite, mais la nourriture qui était offerte n'était pas de la nourriture naturelle, c'était la nourriture spirituelle que vous avez eue tout le temps. Laissez-moi m'arrêter à ce quatrième songe un instant. Ne vous souvenez pas, frère Sutton et frère Bankswood, lorsque nous étions en Arizona l'année dernière, en train de chasser le sanglier et que le Seigneur parla, ne vous rappelez-vous pas les choses qu'il a faites parfaitement, montrant ce qui arriverait alors que nous suivions la route? Si c'est vrai, vous deux frères, dites Amen. Cela ne rate jamais. Et je vis dans une vision, alors qu'un jour nous roulions, une vision du Seigneur me vint. Et je m'apprêtais à ce moment-là, lorsque je suis revenu à la maison, à partir outre-mer. Et lorsque je suis parti outre-mer, eh bien, je vis sur le bateau, ou un endroit au bord de la mer d'où les bateaux partent. Et il y avait là un petit homme. Il me dit, « J'ai préparé un bateau pour vous, Frère Branham. » Et c'était un tout petit canoë d'environ 30 cm de long, mais il était blanc comme de la neige. Il me dit, « C'est pour votre traversée. » Oh, dis-je, ce n'est pas suffisant. Il me dit, « Il fera du 60 km à l'heure ici, le long. C'est le long de la rive. » Mais dis-je, cela ne permettra pas de faire la traversée. Puis il regarda en bas et me dit, allez comme eux. J'ai regardé, il y avait là Frère Sutton et Frère Bankswood qui étaient assis dans un canoë peint en verre avec du matériel de camping à l'arrière. Frère Banks avec un chapeau relevé comme ceci et Frère Fred avec une casquette dont la visière était pliée. Et il dit, allez comme eux. J'ai dit, non, je n'irai pas. Et cet homme leur dit, le petit homme, « Êtes-vous des bateliers? » Frère Banks répondit, « Oui. » Frère Fred dit, « Oui. » Mais je dis, « Ce n'est pas vrai. Moi, je suis un batelier, et je sais que je n'irai pas juste pour cela, et je suis sûr que je n'irai pas ainsi. » Il dit, « Pourquoi n'allez-vous pas avec eux? » J'ai répondu, « Non, non. » Alors, je me tournai, et à ce moment-là, le petit homme au port apparut comme étant mon cher frère Argenbright. J'ai poursuivi cette vision. Il y avait un petit bâtiment long, et alors une voix me dit, « Vous vous rappelez tous de ceci, ou beaucoup parmi vous? » Une voix me dit, « Amène de la nourriture à l'intérieur, emmagasine-la. Le seul moyen de les garder ici, c'est de leur donner de la nourriture. » J'avais amené dans ces grands tonneaux tout pleins les plus belles carottes et les plus beaux légumes que jamais vus. Vous souvenez maintenant de la vision? Je vous ai dit plus tard que ce qu'en était l'interprétation, j'étais censé aller à Zurich en Suisse avec frère Grunbrock pour 5 soirs de réunion. J'ai dit au frère avant que cela arrive, je n'irai pas. J'étais là-bas avec frère Welsh Evans lorsque j'ai donné l'interprétation. Un soir, je crois que frère Welsh est venu me prendre. Nous allions faire une partie de pêche et il me dit, frère Grunbrock m'appelait. J'ai dit, très bien, voilà, c'est ça. Ils vont se débarrasser de moi. Et souvent, non pas par l'intermédiaire de Frère Minor, c'est l'un de mes meilleurs amis, mais parfois, s'ils peuvent simplement, s'ils peuvent que vous allez prêcher quelque chose qui est contraire à leur doctrine, ils disent simplement que vous allez être là pour faire en sorte que vos amis s'y trouvent. Il dit, Frère Edward me téléphona, il me dit, Frère Branham, juste que l'Esprit avait dit, venez et amenez votre femme avec vous, parce que vous n'aurez pas beaucoup à prêcher, je crois qu'ils vont vous juste mis pour un soir. Et il ajouta, vous n'aurez peut-être même pas besoin de prêcher ce soir-là. J'ai dit non. Eh bien, dit-il, venez, vous et votre femme, venez tous, et ainsi, je vous ferai faire un tour. Ma femme et votre femme et tous les autres, nous visiterons la Suisse et nous irons ensuite en Palestine. J'ai dit non. J'avais l'interprétation. J'ai dit à Frère Welsh ou à Frère Fred et aux autres, je vous le dirai demain matin, mais premièrement, ma femme doit dire quelque chose. Et lorsque je lui ai téléphoné, elle refusa d'aller. J'ai dit, voilà, c'est ça. Voyez-vous? Or, ce petit bateau blanc représentait cette unique réunion. C'est bien d'aller ici quelque part sur la rive pour une réunion, mais ce n'est pas assez bien que je fus blanc et bon pour m'appeler outre-mer. Frère Fred et le frère qui étaient là, représentés dans la vision, leur présence signifiait aller comme touriste pour le plaisir. Mais je ne désirais pas faire cela. Et lorsqu'il fut dit qu'ils n'étaient pas des bateliers, cela voulait dire qu'ils n'étaient pas des prédicateurs. Mais moi, j'étais un prédicateur. Puis la nourriture, dans ce bâtiment long, je ne suis pas allé outre-mer, mais je suis revenu à ce petit bâtiment. Nous avons fait des douzaines de bandes sur la pyramide, etc., pour montrer aux gens l'heure dans laquelle nous vivions. Maintenant, comparez même cela avec les autres songes. Or, c'était une vision. La nourriture, la voici. C'est ici l'endroit. Remarquez. Alors, qu'arriva-t-il? Immédiatement après cette quatrième vision, où qu'on m'eut raconté ce quatrième songe, un certain frère Parnell est venu. Il est ici quelque part, le voilà. Billy n'était pas ici, et cet homme était hors de lui. Il vient de Bloomington, je crois, ou de Bedford, de Lafayette. Et il tenait des réunions, il eut un songe, puis il vint dire à Frère Wood, « Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je dois le dire à Frère Branham, cela me tracasse. » Et Dieu sait qu'il n'y a pas eu un seul songe entre eux deux. Ils sont arrivés en suivant, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frère Barnum dit, j'ai eu un étrange songe. J'ai rêvé que j'allais avoir une réunion à cet endroit. Il s'est trouvé qu'il y avait une réunion ici, comme dans une nouvelle église. Et il a dit que quelle manière cette nouvelle église s'était trouvée là et qu'il s'était demandé pourquoi les deux églises ne coopéraient pas entre elles ou quelque chose ainsi. Il dit qu'il se trouvait là et qu'il pensait, eh bien, je suis déjà venu ici, je vais simplement attendre et j'assisterai aux réunions. Il dit qu'un homme portant un complet brun et tenant un livre traversa la salle, je pense qu'il écrivait. Il dit à Frère Purnell, c'est une réunion fermée. C'est seulement pour les diacres et les administrateurs. Eh bien, il se sentit un peu comme rabroué. Il sortit donc de la nouvelle église, l'église qui avait été érigée ou réparée, remise en état. Et lorsqu'il se trouva dehors, il neigeait. Il faisait mauvais temps. C'était en hiver. Aucune de ces personnes ne savait quoi que ce soit à ce sujet. Au moment où il sortit, je me trouvais là, regardant vers l'ouest. Je lui dis, « Ne vous sentez pas rabroué, Frère Parnell. Je vous indiquerai ce que vous devrez faire. » Frère Parnell et les autres savent que je n'aurais jamais donné l'interprétation. C'est maintenant que je la donne. Bien que j'ai vu leur songe tandis qu'ils leur racontaient, avez-vous remarqué comme je suis sorti de là rapidement, Frère Parnell, pour éviter d'avoir à vous le dire? Je suis parti sans ne jamais rien dire à Frère Wood ou à quiconque. Je n'ai rien dit à personne. Je l'ai laissé ainsi parce que je voulais voir où ça conduisait. Avez-vous entendu dire dernièrement, je suis tracassé? Voilà de quoi il s'agissait. Alors, Frère Parnell dit que je lui ai dit, « Frère Parnell, commencez à marcher, et le premier endroit où vous arriverez sera Sephora, ce qui signifie « trait d'union », arrêt ou quelque chose ainsi. » Je lui ai dit, « Ne restez pas là. En continuant, vous trouverez une femme âgée. Et alors, ne vous arrêtez pas là. Continuez alors, vous trouverez une femme très âgée. Ne vous arrêtez pas là. » Alors, je lui parlais, nous marchions dans la neige. Je lui ai dit, Allez jusqu'à ce que vous trouviez ma femme. Et lorsque vous la trouverez, arrêtez-vous là. Il dit qu'en regardant, il vit que nous avions quitté la neige et que nous nous trouvions dans le désert. Et j'ai disparu. Et regardant en arrière, il vit sa femme qui pompait de l'eau d'un puits et qu'un prédicateur était en train de la tirer pour l'éloigner de la pompe. Elle l'observait et il se réveilla. Voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous la dire ce soir-là, mais je suis simplement parti. Séphora, cette femme âgée, et l'autre qui était très, très âgée, ce sont des églises. Voyez-vous? Séphora était en fait la femme de Moïse. Séphora. Nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s'arrêter à elle. Peu importe leur âge, c'était des organisations. Ne vous arrêtez pas à elles. Elles ont fait leur temps. Mais lorsque vous arriverez vers ma femme, ce qui est mon Église, celle vers laquelle Jésus-Christ m'a envoyé en ces derniers jours, et la voici, arrêtez-vous là. Et j'étais parti vers l'ouest. Puis, sœur Steffi, il se peut qu'elle ne soit pas ici parce qu'elle a été à l'hôpital, je ne sais pas. Sœur Steffi est-elle? Oui, la voilà. Sœur Steffi a passé chez moi avant d'aller à l'hôpital et subir une opération pour que je prie pour elle et qu'ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Il l'a certainement fait. Elle dit, « J'ai eu un étrange songe, Frère Branham. » Je lui ai dit, « Oui. » Elle dit, « J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest et que je... » C'est le sixième. J'ai rêvé que je me trouvais dans l'ouest. Et c'était une région accidentée. Et quand je regardais et je vis debout sur une colline, un homme très âgé avec une longue barbe blanche et les cheveux qui avaient recouvert son visage, il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Je pense que c'est juste comme ça, Sœur Steffi. Et elle dit, « Je me rapprochais toujours davantage. » Il se tenait au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'est. Et elle dit, « Je me demandais, qui est ce vieil homme? » Elle se rapprochait toujours davantage. Et quand elle se trouvait plus près, elle reconnut qui c'était. C'était l'immortel Élie, le prophète qui se tenait là, observant l'est. Elle dit, « Je dois le voir. » Elle avait un besoin. Elle courut jusqu'au sommet de la colline et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Et quand elle lui parlait, elle entendit une voix lui disant, « Que voulez-vous, sœur Steffi? » Et c'était moi. Votre rêve s'est accompli à ce moment-là, sœur Steffi. Car immédiatement après cela, je suis allé à Louisville. Ce dont vous aviez besoin, c'était la prière, afin que tout aille bien pour elle à l'hôpital. Et le signe me montrait en train d'aller vers l'ouest, tout en regardant vers l'est pour surveiller mon troupeau. Remarquez, je suis allé à Louisville, et quand je suis revenu, je vis en me dirigeant vers le portail que mon terrain était jalonné. M. Gouin, ici de la voirie, passait sur le chemin. Il me dit, « Billy, viens ici. » Puis il me dit, « Tu dois déplacer tes portails. Ta clôture de pierre et tes portails. » Je lui dis, « Bon, d'accord, Bill. Je le ferai. » Mais à quel moment? Il me répondit, « Je te dirai. Je te ferai savoir quand ce sera. Ils vont commencer vers le premier de l'an. » J'ai dit, « Très bien. » Ainsi, je me dirigeais à nouveau vers la maison et ma femme me dit, « Je dois vite aller à l'épicerie. » Je suis descendu le chemin et un garçon du nom de Raymond King, qui est un ingénieur des ponts et chaussées, je lui ai toujours appelé « Oreille boueuse » parce que nous étions petits et nous allions nager ensemble. Il jeta de la boue dans l'oreille d'un garçon. Nous l'avons toujours appelé « Oreille boueuse ». Il habite au bord du même chemin que moi. Je lui ai dit, « Bou, viens ici une minute. » Il répondit, « Très bien, Billy. » Je lui ai dit, « Ce jalon que tu as posé. » Il dit, « Billy, ils vont prendre le tout. » Tous ces arbres, ces clôtures et tout le reste devraient être déplacés. Je lui ai dit, eh bien, l'ingénieur m'a dit que ma propriété arriverait au milieu de la route. Il dit, oui, mais ils vont élargir la route. Ils ont dit, on ne peut rien faire là contre. Il ajouta, c'est la même chose pour moi. Je lui ai dit, eh bien, frère Wood est un maçon. Je vais simplement lui demander de la déplacer. Il a dit, n'y touche pas. Laisse l'entrepreneur faire cela. C'est le presbytère, n'est-ce pas? Oui, je lui répondis, mais laisse-lui faire. Tu sais ce que je veux dire? Je répondis oui. Je fis demi-tour et aussi vite que ça, quelque chose me prend. Je suis rentré chez moi, je suis allé dans mon cabinet d'études, j'ai pris ce livre et c'était là. Ce n'était pas des blocs de ciment, c'était des pierres. J'ai dit, Meda, prépare-toi. 6 rêves nets, puis la vision couronna le tout. Quand ces choses arrivent, tourne-toi vers l'ouest. J'ai appelé Tucson. Frère Norman a trouvé un endroit. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais que faire. Je me tiens là sans savoir quoi faire. Je quitte une maison pour laquelle je n'ai pas de loyer à payer. Mon salaire est de 100 $ par semaine. Je dois presque payer 100 $ par mois pour une maison. Je suis ici avec mes frères et sœurs dans un endroit où l'on m'aime. Je vais je ne sais où. Je ne sais pourquoi. Je ne peux vous dire pourquoi. Mais je sais une chose, c'est suivre simplement ce qu'il dit de faire. Je ne sais pas de quel côté me diriger. Ce qu'il faut faire, cela ne me... Je pense qu'Abraham ressentit la même chose lorsque Dieu lui dit, « Va de l'autre côté de la rivière. » Il ne savait que faire, si ce n'est voyager, se séparer. Je ne savais que faire. Samedi matin dernier, cela faisait hier une semaine, vers les 3 heures du matin, je me suis levé pour aller boire une goutte d'eau. Je suis allé dans la chambre de Joseph, ramener la couverture sur lui, puis je suis revenu me mettre au lit et je me suis endormi. Pendant mon sommeil, maintenant je raconte ces différents petits rêves afin que vous puissiez voir les antécédents de ce que je vais vous dire tout à l'heure. J'ai donc recouvert Joseph, je suis allé me recoucher et je me suis endormi et j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je voyais un homme qui était censé être mon père, bien qu'il soit très grand de stature. Et j'ai vu une femme qui était censée être ma mère, seulement elle ne lui ressemblait pas. Cet homme était très méchant envers sa femme. Il tenait un morceau de bois à 3 angles, il avait fendu ce bois et avait fait un... Vous savez, quand on vous coupe un tronc d'arbre, ça fait un morceau triangulaire. Et chaque fois que cette femme commençait à se lever, il la saisissait par le cou, la frappait sur la tête et l'assommait. Une fois rabrouée, elle se tenait là et pleurait, puis elle cherchait à se relever. Il se promenait fièrement en gonflant sa poitrine. Il était de forte carrure et quand elle se relevait, il la saisissait par le cou, prenait ce morceau de bois triangulaire et lui frappait la tête et la faisait retomber. Puis il repartait en gonflant sa poitrine comme s'il avait fait quelque chose de grand. Je me tenais là à l'écart en train d'observer ceci. Je pensais, je ne peux pas m'attaquer à cet homme, il est trop grand. Et aussi, il est censé être mon papa. Mais ce n'est pas mon papa. Et je dis, il n'a pas du tout le droit de traiter cette femme ainsi. Je commençais à devenir un peu contrarié à ce sujet. Puis, tout à coup, je pris courage, allé vers lui, le saisis par le col et je le fis pivoter. Puis je lui dis, vous n'avez pas le droit de la frapper. Et lorsque je dis cela, mes muscles grossirent. Je ressemblais maintenant à un géant. L'homme regarda ses muscles et il eut peur de moi. Je lui dis, « Si vous la frappez de nouveau, vous aurez affaire à moi. » Et il hésita alors à la frapper de nouveau, puis je me réveillai. Je restai étendu un moment, je pensais, « Qu'est-ce? C'est étrange que je rêve de cette femme. Dans l'espace d'un instant, le voici qui vient. Je reçus l'interprétation. La femme représente l'Église du monde d'aujourd'hui. Du monde entier. Je suis né au milieu de ce gâchis et me voici. Elle est censée être une sorte de mère. Elle était une mère de prostituée, mais pourtant je suis né là-dedans. Et son mari Ce sont les dénominations qui dominent sur elle. Le morceau de bois triangulaire qu'il tenait, c'est ce baptême train dans des faux noms. Et chaque fois qu'elle essaie de se lever pour que la congrégation l'accepte, il lui donne un coup avec cela pour qu'elle retombe. Bien sûr, comme il était si grand, j'avais eu peur de lui. Mais ensuite, je m'élançais sur lui malgré tout, et les muscles étaient des muscles de la foi. Cela me fit penser à ceci. Si Dieu était pour moi, qu'il peut me donner des muscles, laisse-moi prendre sa défense et qu'il cesse de la frapper. Ça devait être 10 heures du matin lorsque ma femme essaya d'entrer dans la chambre et c'est arrivé. Je suis entré dans une vision ce matin-là et je... Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas un songe. Il y a une différence entre des songes et des visions. Les songes se produisent pendant votre sommeil, les visions se produisent alors que vous ne dormez pas. Nous sommes nés ainsi. L'être humain ordinaire, quand il rêve, cela se passe dans son subconscient. Et son subconscient est très loin de lui. Ses sens sont actifs aussi longtemps qu'il est dans sa première conscience. Dans cette conscience, vous êtes normaux. Vous pouvez voir, goûter, toucher, sentir, entendre. Mais lorsque vous êtes dans votre subconscient, que vous êtes endormi, vous ne voyez pas, ne goûtez pas, ne touchez pas, ne sentez pas, n'entendez pas. Mais il y a quelque chose lorsque vous rêvez que vous faites retourner à cette conscience. Il y a une mémoire qui fait que vous vous souvenez de quelque chose dont vous avez rêvé il y a plusieurs années. Un être humain ordinaire est ainsi. Mais lorsque Dieu prédestine quelque chose, ce subconscient n'est pas très éloigné d'ici pour le voyant, mais les deux consciences sont ensemble. Le voyant, dans une vision, ne dort pas. Il a encore tous ses sens. Il le voit cela. J'expliquais cela à des médecins l'autre jour. Ils se levèrent et dirent, « Merveilleux, nous n'avions jamais pensé à une telle chose. » Alors que je passais un encéphalogramme, ils dirent qu'ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Ils dirent, « Quelle chose vous arrive? » Je leur ai dit ce qui en était. Ils dirent, « C'est cela, exactement. » Les deux consciences sont tout près l'une de l'autre. Ce n'est rien que j'ai pu faire. Et cela ne me rend pas supérieur aux autres pour autant. C'est simplement Dieu qui l'a fait ainsi. Vous ne dormez pas, vous êtes ici même, comme endormi. Vous vous tenez là en train de regarder comme ceci. Et vous tous l'avez vu autour du monde. Vous ne dormez pas, vous vous tenez là sur l'estrade en train de parler aux gens. Vous m'entendez entrer dans des visions et en revenir alors que je suis en voiture. Et dans n'importe quel autre endroit, et vous dire des choses qui vous sont arrivées. Cela ne faillit jamais. Cela n'a jamais failli. Quelqu'un l'a-t-il déjà vu faillir? Non, monsieur, cela ne peut pas faillir. Cela ne faillira pas aussi longtemps que c'est Dieu. Remarquez, sur l'estrade, des milliers d'entre elles, devant des dizaines de milliers de gens, même dans des langues que je ne peux pas parler, et cela ne faillit pourtant pas. Voyez-vous, c'est Dieu. Maintenant, dans cette vision, ou alors que je parlais, que je regardais, je vis une chose étrange. Il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. Je regardais, et il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux, de tout petits oiseaux d'environ 1 centimètre de long et 1 centimètre de haut. C'était de petits vétérans. Leurs petites plumes étaient rabattues. Il y en avait environ 2 ou 3 sur la branche du faîte, 6 ou 8 sur la branche suivante et 15 ou 20 sur la suivante encore, cela descendant en forme de pyramide. Ces petits oiseaux, ces petits messagers, avaient l'air passablement épuisés. Ils regardaient en direction de l'est et dans la vision, j'étais à Tucson, en Arizona. Comme il ne voulait pas que je manque de voir où j'étais, il fit en sorte que j'étais en train d'arracher sur moi un gratron du désert. Je dis maintenant, je sais que c'est une vision et je sais que je suis à Tucson. Et je sais que ces petits oiseaux qui sont là représentent quelque chose. Ils regardaient en direction de l'est. Tout à coup, ils s'avisèrent de partir et s'envolèrent en direction de l'ouest, de l'est. Aussitôt qu'ils furent partis, une constellation d'oiseaux plus grand arriva. Ils ressemblaient à des colombes avec des ailes effilées et pointues, d'une couleur un peu grise, mais un peu plus claire que ces premiers petits messagers. Ils allaient très rapidement en direction de l'est. Aussitôt qu'ils eurent disparu de ma vue, Je me tournai à nouveau pour regarder vers l'ouest et la chose arriva. Il y eut une déflagration qui secoua en fait toute la terre. Maintenant, ne manquez pas ceci. Et vous qui écoutez la bande, soyez sûrs de bien comprendre ceci. Premièrement, une déflagration. Je pensais que la détonation était semblable à celle que faisait un avion lorsqu'il traverse le mur du son et que celui revient sur la terre. Cela a secoué comme il y eut un grondement et tout le reste. Cela aurait pu être également semblable à un gros coup de tonnerre à la suite d'un éclair. Je n'ai pas vu l'éclair. J'ai seulement entendu cette grande déflagration qui se produisit et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi, vers le Mexique. Mais cela secoua la terre. Et à ce moment-là, j'étais tout en train de regarder vers l'ouest, très loin dans l'éternité. Je vis une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à de petits points. Il devait y en avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7. Ils étaient en forme de pyramide, comme les messagers précédents. Et à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant m'enleva à leur rencontre. Je peux voir, cela ne m'a pas quitté. 8 jours sont passés, je ne peux pas encore l'oublier. Je n'ai jamais rien eu de tel qui m'ait tracassé à ce point. Ma famille vous le dira. Je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière, qui voyageaient plus vite que le son. Ils sont venus de l'éternité en un instant, comme un clin d'œil. Pas suffisamment pour battre des paupières, juste un clin d'œil. Ils étaient là. Je n'ai pas eu le temps de compter, je n'ai pas eu le temps, je ne pouvais pas regarder. C'étaient de grands et puissants anges, blancs comme de la neige. Leurs ailes, en battant, faisaient fiou, fiou. Et à ce moment-là, je fus élevé dans cette pyramide, cette constellation. Je pensais, maintenant ça y est, tout mon corps était engourdi. J'ai dit, oh là là. Cela veut dire qu'il y aura une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils sachent, mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir que mon temps était terminé. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'elle ne se fasse pas du souci à mon sujet, parce qu'il est sur le point de s'en aller, et ses anges sont venus me chercher, et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion. Puis cette pensée me vint, alors que j'étais dans cette constellation. Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Puis je me retournai et je pensais, « Seigneur Dieu, que signifie cette vision? » Je me le demandais et ensuite, cela m'est venu. Non pas une voix, cela m'est simplement venu. « Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. » Et quand cette pensée me vint, je levai les mains et dis, « Oh Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? » Et la vision me quitta. Pendant environ 1 heure, je n'eus plus de sensibilité. Oh, vous savez ce que sont les bénédictions du Seigneur. Mais la puissance du Seigneur est tout à fait différente. La puissance du Seigneur dans ces endroits où je l'ai senti de nombreuses fois auparavant dans mes visions, mais je n'ai jamais comme cela. Cela ressemble à une crainte respectueuse. J'avais si peur que j'étais paralysé en présence de ces êtres. Je dis la vérité. Comme Paul l'a dit, je ne mens point. N'avez-vous déjà surpris en train de dire quelque chose de faux à propos de quelque chose comme cela? Quelque chose est sur le point d'arriver. Un moment après, je dis, « Seigneur Jésus, si je vais être tué, fais-le-moi savoir, afin que je n'en parle pas à mes fidèles. Mais si c'est quelque chose d'autre, fais-le-moi savoir. » Il n'y a aucune réponse. Après que l'esprit m'eut quitté pendant environ 1 demi-heure, je pense, ou davantage, je dis, « Seigneur, si cela signifie que je vais être tué, que tu as terminé avec moi sur la terre et que je vais être amené à la maison maintenant. Si c'est cela, c'est bien, c'est en règle, mais fais-le-moi savoir. Envoie de nouveau ta puissance sur moi. Alors je saurai que je ne dois pas le dire à mes fidèles et que je sois parce que tu es sur le point de me reprendre et rien ne se produisit. J'attendis un moment, puis j'ai dit, « Seigneur Jésus, si cela n'en était pas la signification, mais plutôt que tu as quelque chose à me faire, que toi m'être révélé plus tard, alors envoie ta puissance. » Et cela me transporta presque hors de la chambre. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part. Je pouvais entendre ma femme en train de secouer une porte. La porte de la chambre à coucher était fermée à clé. La Bible était ouverte. Et je lisais, je ne sais pas, mais c'était, je crois, dans Romains chapitre 9, le dernier verset. « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, une pierre d'achoppement, une pierre angulaire précieuse, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Je pensais, c'est étrange que je lise cela. L'Esprit continua à me transporter dans la chambre. Je fermais la Bible et me tins là. Puis je suis allé vers les fenêtres. C'était environ 10 heures du matin ou davantage. J'ai levé les mains et j'ai dit, « Seigneur Dieu, je ne comprends pas. C'est un jour étrange pour moi et je suis presque hors de moi. Seigneur, que signifie cela? Laisse-moi le lire de nouveau si c'est toi. Maintenant, cela paraît juvénile. » Je pris la Bible et l'ouvris. Cela se trouvait du nouveau au même endroit, Paul disant aux Romains que les Juifs essayèrent de l'accepter par les œuvres, mais que c'est par la foi que nous le croyons. Eh bien, cela a été un temps très particulier depuis. Maintenant, vous voyez quelle est ma position. Je ne sais pas ce qui arrive. Je ne sais que dire. Mais laissez-moi, à partir de maintenant et durant les 15 ou 20 prochaines minutes, essayer de vous dire quelque chose. Souvenez-vous que pas une seule fois ces visions n'ont failli. Maintenant, je vais prendre un instant les Écritures. Si vous faites attention, dans Apocalypse, au chapitre 10, alors, laissez-moi dire ceci. Si la vision est scripturaire, elle peut être seulement interprétée par l'Écriture. Alors, je veux que vous mettiez ceci ensemble. Maintenant, vous qui êtes présents et vous qui écoutez la bande, soyez sûr de dire ceci de la même façon que je le dis, parce que cela pourrait être très facilement mal compris. Êtes-vous pressé? Très bien. Je vous remercie de votre tranquillité et de votre gentillesse. Le septième ange, or comme je l'ai intitulé, « Messieurs, est-ce le signe de la fin des temps? Où vivons-nous? Quel moment du jour est-ce? Comme le lutteur fatigué qui se lève et allume dans la nuit pour voir l'heure qu'il est? » Ma prière est, ô Dieu, laisse-nous allumer. Je suis dans une position terrible. Si vous saviez seulement, souvenez-vous, je vous dis au nom du Seigneur que je vous ai dit la vérité. Et quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas. Maintenant, vous qui écoutez la bande, avez-vous compris cela? Je ne sais pas. Je vais essayer. Ce que j'ai reçu hier alors que j'étais assis dans mon cabinet d'études, je ne dis pas que c'est la vérité. C'est seulement quelque chose qui remuait dans mon cœur tandis que je marchais de long en large. J'étais censé aller prendre un certain temps et aller chasser un jour avec Charlie avant de devoir nous séparer. Laissez-moi dire que, bien que je m'en aille à l'ouest, cela ne veut pas dire que je quitte ce tabernacle. C'est ici l'Église que le Seigneur Dieu m'a donnée. Voici mon quartier général. C'est ici que je demeure. Je pars seulement en obéissance à un commandement qui m'a été donné par vision. Mon fils Billy Paul restera mon secrétaire. Mon bureau sera ici même dans cette église. Avec l'aide de Dieu, je serai ici lorsque cet endroit sera terminé et je prêcherai sur les sept sceaux et chaque bande que j'enregistre ou quoi que ce soit d'autre sera fait ici même dans cette église. C'est ici l'endroit, autant que je sache, où je peux prêcher avec davantage de liberté que n'importe où dans le monde à cause des gens ici qui croient, qui ont faim et qui tiennent bon. Je me sens comme chez moi ici. Voici l'endroit. Et si vous faites attention, vous verrez que le songe a dit la même chose. Vous voyez? Ou la nourriture. Toutefois, je ne sais pas ce qu'il y a dans le futur, mais je sais qui tient le futur. C'est la chose principale. Maintenant, ô Dieu, si j'ai tort, pardonne-moi et ferme ma bouche, Seigneur, à tout ce qui ne serait pas ta volonté. Je fais simplement ceci parce que je suis impressionné, Seigneur. Puissent les gens comprendre, seulement impressionné. La raison pour laquelle je pense que l'interprétation n'est jamais venue immédiatement, c'était par la souveraineté de Dieu, parce que je crois que c'est écrit ici dans la Bible pour moi. Alors, si c'est scripturaire, cela, l'Écriture peut l'interpréter. Si c'est vrai, frères et sœurs, je n'ai pas l'intention de vous effrayer. Mais nous ferions mieux de faire très attention maintenant. Nous sommes sur le point de... Quelque chose est sur le point d'arriver. Maintenant, je dis ceci avec respect et dans la crainte de Dieu. Et vous pensez que je me tiendrai ici et vous croyez même que je suis un prophète. Je ne prétends pas en être un. Mon sentiment était celui-ci. Puis l'année dernière, j'ai dit que la seule chose que j'avais vue, c'est que le réveil était terminé dans les différents pays, ou dans ce pays-ci en tout cas. J'ai fait une tournée d'évangélisation, et beaucoup d'entre vous sont venus avec moi, et c'était bien, nous avons eu de bons moments, de bonnes réunions, de grandes foules, mais cela n'a pas été vraiment atteint son but. Cette année, je vais faire une tournée missionnaire. Aussitôt que possible, je vais aller en Afrique, en Inde et autour du monde pour une autre tournée missionnaire. Si cela ne marche pas, alors je ne prendrai ni eau, ni nourriture, et je grimperai là-haut sur une de ces hautes montagnes, et je resterai là jusqu'à ce que Dieu me réponde d'une façon ou d'une autre. Je ne peux vivre ainsi. Je ne peux pas continuer. Ceci sera peut-être la réponse, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il me change. Vous souvenez-vous de la vision donnée il y a environ 3 semaines, me montrant debout dans le soleil en train de prêcher à l'Assemblée? Vous étiez tous ici dimanche dernier et bien d'autres dimanches. Vous vous procurez les bandes et vous qui êtes ici sont enregistrés. Comprenez ces choses parce que maintenant, je vais simplement toucher, observer cela, même les détails, tout ce qui a été dit se retrouve dans ceci. Ainsi, ce doit en être l'interprétation. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, messieurs, est-ce cela? Je crois que le septième ange d'Apocalypse 10 est le messager du septième ange de l'Église d'Apocalypse 3:14. Souvenez-vous. Maintenant, laissez-moi lire. Regardez. Où je peux lire? Or, c'était le septième ange, mais qu'au jour de la voix du septième ange, le septième verset, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, vous pouvez voir que c'était un ange. Et c'est l'ange du septième ange de l'Église, parce qu'il est ici que c'est le septième ange du septième ange de l'Église. Si vous voulez voir ici qui est, où est l'ange, Apocalypse 3:14, c'est l'ange à l'Église de Laodicée. Vous vous souvenez lorsque cela a été dit, les anges dans les âges de l'Église? Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces sept sceaux dont nous allons venir parler. Les sept sceaux dont nous allons essayer de parler lorsque nous reviendrons cette fois sont les sept sceaux écrits. Et ces sept sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des sept anges des sept Églises. Mais il y a sept autres sceaux qui sont au dos du livre. C'est en dehors de la Bible. Remarquez, nous allons y arriver dans un moment. Maintenant, avant de commencer ceci, êtes-vous fatigué? Aimeriez-vous vous lever, changer de position? Écoutez attentivement. Le septième ange d'Apocalypse 10, 7 est le messager au septième ange de l'Église. Voyez-vous? Maintenant, observez. Au jour, observez ceci. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ce messager, ici, le septième ange, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais c'est le septième ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Septième ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le septième ange les réunit et met fin aux mystères entiers. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce que dit Scofield ici, dans Matthieu 13. Si vous voulez en inscrire certains, si vous n'avez pas de Bible Scofield, vous voudrez peut-être lire ce que sont, d'après lui, certains des mystères. Maintenant, au verset 11, Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné, c'est-à-dire à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Les mystères. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'Écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Les plus grands mystères et les grands mystères sont, numéro un, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3 à 15. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, 25, avec le contexte. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14, 17. Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des gentils, Éphésiens 3, 1, 11, Romains 16, 25, et aussi Éphésiens 6, 19, Colossiens 4, 3. Ce cinquième mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ, Éphésiens 5, 28 à 32. Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, Galates 2, 20, et Hébreux 13, 8, et de nombreux autres passages semblables. Le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens. Le dixième mystère, c'est celui des sept étoiles d'Apocalypse 1-20. Nous en avons déjà traité. Les sept étoiles étaient les sept églises, les sept messagers, etc. Et le 11e mystère, c'est mystère Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17, 5, 7. Ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure tous les mystères. Tous les mystères de Dieu. Et les autres, puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu, la semence du serpent, qui fut un mystère caché durant toutes ces années, la grâce redressée, non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez pendant des millions d'années, mais tout ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin, ni l'enfer fut créé. Tous ces mystères. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du baptême d'eau que le trinitarisme extrême a changé en des titres de Père, Fils et Saint-Esprit, et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême du nom au nom de Jésus-Christ selon le livre de la Révélation que l'Église en ce temps devrait recevoir, voilà certains des mystères. Le retour de la colonne de feu. Amen. C'est la chose qui est censée arriver et nous la voyons. Oh, comme nous pourrions continuer à nommer ce mystère, nous voyons cette colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël, la même qui frappa Saül en route par Damas, et la même qui vient avec la même puissance, faisant les mêmes choses et révélant la même parole tout en restant mot à mot avec la Bible. Le son de la trompette signifie trompette de l'Évangile. Et le son de la trompette dans la Bible signifie « Préparez-vous pour une guerre scripturaire ». Avez-vous saisi cela? Une guerre scripturaire. Paul a dit, si vous voulez l'inscrire, c'est 1 Corinthiens 14, 8. Paul a dit, « Si la trompette rend un son confus, comment un homme saura-t-il à quoi se préparer? » Et si elle ne produit pas un son scripturaire, un son confirmé, une confirmation de la parole de Dieu rendue manifeste, comment le reconnaîtrons-nous à la fin des temps? Si elle dit qu'elle croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais nie ses signes et miracles qui firent que toute la nature et toute l'Église crurent en lui, comment serons-nous, de quelle manière nous préparer? Quelqu'un est venu avec un tableau et a dessiné tout cela, et quelqu'un vint avec autre chose et le dessina, et c'était contraire au premier. Certains sont venus et ont dit, voilà, c'est cela, en revenant ici, d'autres ont écrit des livres, etc. Mais Dieu vient dans la puissance de sa résurrection et qui va parler là contre. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il fait la même chose qu'il a faite hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce qu'est censé faire cet ange. Il doit prendre ses mystères, ses points à suspens sur lesquels les gens s'égarent. Remarquez, si cela donne un son confus qui n'est pas scripturaire, qui peut se préparer. Mais une trompette, avez-vous remarqué dans chacun de ces âges, comme si je vous parlais d'une église qui venait, une trompette sonnait, un sceau était brisé, une trompette signifie guerre. Si elle ne donne pas un son scripturaire, alors qu'en est-il? Mais laissez-moi vous rappeler ceci, ne le manquez pas maintenant. Remarquez, chaque âge de l'Église eut son messager. Nous savons cela. Paul était le premier messager. Et quand la première trompette sonna et que le premier sceau fut brisé, Paul était le premier messager comme nous l'avons découvert. Qu'a-t-il fait? Déclarer la guerre. À qui? L'Église orthodoxe, pour n'avoir pas cru le signe messianique que Jésus leur avait donné. Oh, il aurait dû le reconnaître. Il aurait dû savoir qui il était. Souvenez-vous que Paul est venu à la fin de l'âge, tous les messagers viennent à la fin de l'âge. C'est à la fin des temps que ces choses sont apportées. Paul connaissait les Écritures et sachant que Jésus était le Messie, a attaqué ses synagogues de lieu en lieu au moyen des Écritures. Et il fut mis à la porte de chacune d'entre elles, si bien que finalement il secoua la poussière de ses pieds et se tourna vers les nations. Qu'était-ce? Le son d'une trompette. Un ange messager se tenant là. avec la parole. Oh là là, ne manquez pas cela maintenant. La parole. Et Paul, avec l'interprétation sans mélange de la parole de Dieu, attaqua chacune de ces synagogues. Cela lui coûta la vie. Comme nous pourrions parler ensuite d'Irénée, le messager de l'Église suivant, et de Martin pour l'âge de l'Église suivant, quand la doctrine des Nicolaites commença à s'introduire, ils s'élevèrent contre cet âge. Martin s'élevèrent contre son âge. Puis Luther. Puis Luther, le cinquième messager, attaqua cette Église catholique avec la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi, a-t-il dit. Et ce n'est pas le corps même de Christ. Et il jeta la communion par terre, sortit et s'éleva contre cette Église catholique. Cette trompette sonna. C'est vrai, n'est-ce pas? John Wesley se leva du temps de l'Église anglicane qui disait « Il n'y a plus de raison d'avoir des réveils » et cela s'arrêta là. Mais John se leva avec un message de la seconde œuvre de la grâce, la sanctification. Il condamna cette Église anglicane avec la trompette de l'Évangile. Préparé pour la guerre, c'est vrai, il l'a fait. Maintenant, nous sommes dans l'âge de Laodicée, où ils se sont nouveau transformés en dénominations. Méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, pentecôtistes, nous attendons qu'un prophète vienne pour condamner cet âge et les faire revenir de leur iniquité. Or, si cela a été la tendance à travers tous les âges, Dieu changera-t-il aujourd'hui sa façon de faire? Il ne peut la changer. Il doit garder sa façon habituelle de porter des coups. Souvenez-vous, ce messager était le septième ange. Il devait prendre tous les mystères et les réunir. Remarquez, le septième ange devait condamner l'Église riche de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Il a dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et tu ne le sais pas. C'était son message. Oh Dieu, envoie-nous un prophète courageux avec l'insidie du Seigneur, à travers lequel la parole de Dieu confirmée se manifestera et prouvera qu'il est envoyé de Dieu. Et quand il viendra, il condamnera ces âges. Certainement. Ils l'ont fait dans tous les autres âges, cela ne changera pas dans cet âge. Cela doit être pareil. Remarquez. Maintenant, l'Église de Laodicée, le messager de cette Église, le septième ange mettra fin à tous les mystères qui ont été perdus dans les précédentes batailles pour la vérité. Luther apparut, mais n'avait pas toute la vérité. Il avait seulement la justification. C'est vrai. Puis vint un autre messager s'appelant John Wesley avec la sanctification. Il ne l'avait pas. La Bible dit l'Église de Philadelphie. Puis vint l'âge de l'Église de Laodicée avec le baptême du Saint-Esprit. Mais ils gâchèrent tout cela et retournèrent dans le formalisme comme ils le firent au commencement. Alors qu'il devait être considéré comme l'alpha et l'oméga, sa main étendue dans une direction et dans une autre, le premier et le dernier, son esprit descendu le jour de la Pentecôte et remplit ce groupe, elle se vida graduellement jusqu'à ce qu'elle passe par les âges sombres, les sept chandeliers d'or, les sept âges de l'Église, le dernier était celui qui était le plus éloigné de lui, il y eut presque 1000 ans d'âge sombre avec l'Église catholique, Luther commença à porter la lumière suivante, conduisant un peu plus près de la parole, la lumière suivante vint encore plus près, la lumière suivante, celle de Laodicée, puis cela revint comme au commencement, cela retournant le même gâchis qu'au commencement. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Maintenant, observez. Il y a beaucoup de vérités perdues là-dehors. Pourquoi? Parce que d'autres ont établi des compromis vis-à-vis de la vérité. Mais ce septième ange n'établit aucun compromis. Il réunit tous les points en suspens. Il les réunit tous. Et quand il sonne de la trompette, tout le mystère de Dieu devrait s'accomplir. Oh Dieu, envoie-le. Tous les mystères cachés furent accomplis quand cela lui fut révélé. Par quoi? Si ce sont des mystères cachés, cet homme devra être un prophète. N'avons-nous pas traité de cela dernièrement et vu que le prophète qui viendrait dans les derniers jours serait ce grand Élie que nous avons entendu? Parce que ces mystères qui sont cachés aux théologiens devront être révélés par Dieu et la parole vient seulement aux prophètes. Et nous savons cela, il sera le second Élie, comme promis. Oh là là! Le message qu'il apportera sera le mystère de toutes ces choses. Nous avons le baptême d'eau, c'est tout embrouillé, c'est vrai. L'un asperge, l'autre verse de l'eau, l'un Père, Fils, Saint-Esprit, l'autre prend ceci. L'un baptise trois fois en avant, une fois pour un Dieu appelé Père, une autre fois un Dieu appelé Fils, et un autre pour un Dieu appelé Saint-Esprit. L'autre dit, vous êtes dans l'erreur, vous devez baptiser ainsi trois fois en arrière, et oh, quel gâchis! Mais il y a une fin à tout cela, car il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom est Jésus-Christ, et il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a pas un seul passage de l'Écriture, n'importe où dans la Bible, où quelqu'un a été une fois baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Pas une seule fois quelqu'un faisait partie de la nouvelle Église ou de l'Église de Jésus-Christ, fut aspergé, reçu de l'eau qu'on avait versée sur lui ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas une seule fois une cérémonie où l'on ait dit « Je te baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ». Ce sont des credos, etc. Et dans la bataille pour la vérité, ces points ont été perdus. Mais Dieu a dit qu'il restaurerait cela dans les derniers jours. « Je restaurerai, dit l'Éternel. » Nous avons vu cela il n'y a pas longtemps dans l'arbre épouse. Cela nécessitera un prophète. La Bible dit qu'il sera là, c'est vrai. Malachie 4 dit qu'il sera là, et nous le croyons. Nous l'attendons, et nous attendons sa manifestation, et nous verrons la parole de Dieu confirmée. Il n'y aura que peu qui le comprendront. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Combien furent sauvés? 5 hommes. Du temps de Lot, il n'y eut fait que 3 de sauver sa femme, suivie au début, mais fut ensuite perdue. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il n'y en aura que très peu de sauvés, d'enlevés à ce moment-là. L'un des mystères, c'est celui de l'enlèvement de cette Église. Comme Lot fut emmené en dehors, Noé fut enlevé, et l'Église sera aussi enlevée. L'un entra, l'autre sortit, et l'autre monte. Vous voyez, c'est cela, exactement. La parole vient. Le livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé lorsque tous ces mystères ont fini de résonner. Laissez-moi le lire de nouveau afin que vous soyez sûrs. Maintenant, regardez. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, le dernier ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Oh, qu'est-ce que le mystère de Dieu? L'un d'entre eux, Paul a dit dans 1 Timothée 3, je crois, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Car Dieu fut manifesté dans la chair. Nous l'avons touché, nous l'avons vu. Il fut élevé dans la gloire. Il a été vu des anges et justifié ici sur la terre. C'est ce Dieu qu'il s'agit. Assurément, c'est un grand mystère, mais il est entièrement résolu. Non pas Père, Fils, Saint-Esprit comme trois dieux, mais un seul Dieu en trois fonctions. Celle de Père sous Moïse, de Fils sous Christ, du Saint-Esprit sous sa dispensation. Trois dispensations du même Dieu, non pas trois dieux. Le mystère est maintenant terminé. La Bible dit qu'il devait l'être. J'ai vu l'autre jour que les hommes de science essaient de me contredire dans ce qu'ils disaient auparavant, quand j'ai dit quelqu'un qui croyait qu'elle a mangé une pomme. Maintenant, la science dit, vous avez vu le gros titre dans le journal l'autre jour, qu'elle avait mangé un abricot. C'est une sottise. Cela la suffirait-il? Certainement pas. Voyez-vous, ils sont simplement, c'est ce que Caïn a pensé, vous savez, il a apporté de nouveau la même chose, mais Dieu ne reçut pas son sacrifice. Et à Abel le juste, il fut révélé que c'était le sang, et il amena du sang. Oh Dieu, cette Église est l'âge dans lequel nous vivons. Le livre qui est écrit à l'intérieur est alors achevé lorsque cet ange cesse. Maintenant, comprenez bien ceci. S'il vous plaît, quand le message du septième ange est achevé, le mystère de la divinité le mystère de la semence du serpent et tous les autres mystères, la filiation éternelle, comme ils disent. Comment peut-il être un fils éternel quand l'éternité n'a ni commencement ni fin? Et un fils est quelque chose qui est engendré. Comment cela peut-il être raisonnable? Comment peut-il y avoir un enfer éternel alors que celui-ci fut créé? Je crois dans un enfer qui brûle, certainement, la Bible dit. Mais c'est pour détruire. La Bible dit « Heureux celui qui n'a pas peur à la seconde mort ». Voyez-vous? Vous voyez? Vous ne serez pas détruits par la seconde mort. La première est une mort physique. La deuxième est une mort spirituelle quand tout est terminé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous serez punis pour vos péchés peut-être à travers des centaines de milliers d'années, mais il ne peut y avoir d'enfer éternel parce que la Bible dit que l'enfer fut créé. Comment peut-il être créé et être éternel s'il y a eu... La Bible dit que l'enfer fut créé pour le diable et ses anges. Alors s'il fut créé, il ne peut être éternel parce que l'éternel, tout ce qui est éternel, n'a jamais eu de commencement ni fin. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais mourir parce que nous avons toujours existé. Nous sommes une partie de Dieu, le rejeton de Dieu. Il est la seule chose éternelle qui existe. Amen. Vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir parce que vous êtes éternel avec lui. Amen. Laissez cela venir. Alléluia. Nous commençons de toute façon à en avoir assez de ce vieux Lazare. Remarquez, le livre qui est écrit, lorsque cet ange met fin à tous ces ministères qui sont restés en suspens à travers les batailles qu'ils ont eues, Luther a combattu, Wesley a combattu, les pentecôtistes ont combattu, mais la Bible dit qu'il n'en vient qu'un, et qu'au jour où il sonnerait de la trompette, et tous ces mystères, les unitaires sont partis avec le nom de Jésus, les trinitaires sont partis avec Père, Fils et Saint-Esprit, comme ils le firent au Concile de Nicée. C'est pareil, les deux avaient tort, mais maintenant, au milieu de la route, dans les Écritures, se trouve la vérité. Vous voyez où nous en sommes? L'ange du Seigneur. Remarquez, Apocalypse 5, 1. Écoutez ceci maintenant. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans. La partie écrite était à l'intérieur et en dehors scellée de sept sceaux. » Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur du livre, mais en dehors, au dos de ce livre, se trouvaient sept sceaux qui n'étaient pas écrits dans le livre. Or, c'est Jean, le révélateur, qui parle. Maintenant, souvenez-vous, s'il n'était pas écrit dans le livre, mais qu'au jour de la voix du septième ange, tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur s'accomplirait. Il devrait être résolu en ce jour-là. Maintenant, voyez ce que je veux dire? Me suivez-vous? C'est alors le moment que les sept voies d'Apocalypse 10 soient révélées. Lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose. Ce sont les sept mystérieuses voies des tonnerres qui étaient écrites au dos du livre que Jean eut l'interdiction d'écrire. Laissez-moi le lire. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessous de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. » Voyez, maintenant observez ceci. « Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme un rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. » Observez bien. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Quelque chose fut dit. Ce n'est pas seulement un bruit. Il y eut quelque chose de dit. Il allait écrire. Et j'entendis une voix du ciel qui disait, regardez où se trouvaient les voix des tonnerres. Non pas au ciel, sur la terre. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix des cieux. Ils les firent entendre sur la terre. J'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle, S-C-E-L-L-E, scelle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » C'est à l'extérieur. Quand un livre est terminé, or il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Après que tout est achevé, alors ces sept tonnerres, ces sept voix, sont la seule chose qui est attachée au livre, qui n'est pas révélée. Ce n'est même pas écrit dans le livre. Oh là là! Je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens et qu'ils puissent. Ne manquez pas ceci, ne manquez pas ceci. S'il vous plaît, ne le faites pas cette fois. Je suis sur le point de vous quitter. Ne manquez pas ceci. Si vous êtes arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Ces sceaux sont en dehors du livre et au moment où le septième ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis. Et immédiatement, le livre qui était ouvert et a écrit à l'intérieur est fermé. Les mystères de Dieu sont accomplis. Et ce sont les mystères de Dieu. Le départ de l'Église et toutes ces autres choses, les mystères sont terminés. Lorsque ce septième ange proclame tous les mystères, c'est terminé. Quoi qu'il soit, quoi que cela puisse être, la parole de Dieu ne peut faillir. Car il a dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Toutes ces choses, comme Rome étant la prostituée et toutes les églises protestantes, les dénominations devenant comme elles, les dénominations, elles sont devenues ces prostituées, voyez-vous? Tous ces mystères dont les prophètes ont parlé seront révélés ici même en cette dernière heure. Et lorsque ce septième ange apparaît dans l'âge de Laodicée et qu'il commence à faire sonner la véritable trompette, parce que ce sera contraire, ils ne la croiront pas, ils ne la croiront certainement pas, mais ce sera un prophète inspiré parce qu'il n'y a aucun moyen d'imaginer cela. Des hommes essaient d'imaginer la Trinité, ils en attrapent des cheveux blancs et deviennent fous. Personne ne peut le comprendre. Il croit toujours qu'Ève a mangé une pomme et toutes ces choses, et parce que l'homme s'en est tenu à des traditions. C'est ainsi que Jésus a trouvé l'Église. Mais ce devra être un prophète conduit divinement pour que la parole de Dieu lui vienne avec la véritable interprétation de la révélation de Jésus-Christ. Alors il doit en être ainsi. Que Dieu nous aide. Quand il sonne de la trompette, maintenant c'est « Ainsi dit le Seigneur ». Nous avons bien compris cela. Quand il proclame son message, qu'il déclare la guerre, comme le fit Paul aux orthodoxes, comme le firent les autres, Luther, Wesley aux organisations, quand il déclare la guerre, il leur dit qu'ils mentent, que ce n'est pas la vérité et qu'ils induisent les gens en erreur. Quand il proclame cela, vous ne pouvez pas, cela ne faillira pas, parce qu'il sera justifié par la parole de Dieu, vous saurez exactement ce que c'est. Il appellera alors les gens à sortir de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Oh Dieu, envoie-le. Ne manquez pas cela. Quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère sera terminé. Maintenant, remarquez, c'est alors le moment que les sept voix des sceaux d'Apocalypse 10 soient révélées. Comprenez-vous? Lorsque tous les mystères du livre sont achevés, la Bible dit ici qu'il mettrait fin au mystère. Alors que des hommes dans des âges précédents ont combattu pour la vérité, qu'ils ont combattu pour la justification, ils se demandent pourquoi la sanctification pour ceci et cela. Qu'ont-ils fait ensuite? Ils ont fait demi-tour, se sont organisés. C'est pareil pour les pentecôtistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens. Ils ont tout fait la même chose. Ils ont fait demi-tour, se sont organisés. La Bible dit dans Apocalypse 17 que c'est ce qu'ils feraient. La vieille mère prostituée, ses filles, Mystère Babylone. La Bible dit ici que ce serait un des mystères qui serait dévoilé. Les protestants, les prostituées commettant la fornication spirituellement, conduisant les gens par des dénominations avec leur coupe d'iniquité, de doctrine humaine et les éloignant de la fontaine remplie de sang où la puissance du Dieu Tout-Puissant coule librement pour manifester Jésus-Christ. Si cela est vrai, alors Dieu le soutiendra. Et il l'a fait. Il continuera à le faire. Mais lorsque cela se produit, la parole est terminée. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Ce sont les sept tonnerres que nous ne connaissons pas. Et ils n'auraient pas tonné en vain. Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Nous, nous jouons et faisons les sauts, mais Dieu pas. Tout avec Dieu est oui, oui et non, non. Et il ne fait pas le pitre. Il ne raconte pas d'histoire. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il pense. Il ne dit rien, à moins que cela ait du sens. Et les sept tonnerres qui se trouvent là dans la révélation de Jésus-Christ sont un mystère. La Bible ne dit-elle pas que c'est la révélation de Jésus-Christ? Eh bien, il y a un mystère à ce sujet. Qu'est-ce? Les sept tonnerres le détiennent. Car Jean était sur le point d'écrire et une voix se fit entendre du ciel disant, ne l'écris pas, mais scelle-le bien, mets-le au dos du livre. Cela doit être révélé. Ce sont les mystères. Or, nous avons résolu ces choses par le Saint-Esprit. Il nous a dit que ce n'était pas des pommes, que c'était sexuel. Il nous a dit ces choses. Pas un seul ne peut tenir là-devant. Je n'ai pas vu de ma vie un seul prédicateur qui était d'accord avec cela, mais je leur ai demandé. Vous savez, à Chicago, lorsque nous sommes tenus devant eux, environ 350 prédicateurs, vous, sœurs qui êtes ici, vous venez de Chicago, vous y trouviez, vous avez entendu parler, le Seigneur m'a dit, trois nuits auparavant, ils vont te tendre un piège. Tiens-toi près de la fenêtre, je te montrerai. Monsieur Carlson, Tommy Hicks vont te regarder demain matin, vous allez déjeuner, tu diras à Tommy de rester. Mais voici comment ce sera. Dis-leur qu'ils ne vont pas tenir cette réunion à l'endroit qu'ils pensent. Ils seront dans un autre endroit. Ne crains surtout pas, je serai avec toi. Cela me suffit. Le lendemain, M. Carlson, qui est président des hommes d'affaires du plein évangile, m'a dit au téléphone, « Frère Branham, je désire aller déjeuner avec vous. » J'ai dit, « Très bien. » J'ai dit, « Regardez bien, Tommy Hicks, il sera aussi. » Je suis donc allé au Towns and Country et il m'a dit, « Eh bien, Frère Branham, oh, c'est merveilleux. » J'ai dit, « Tommy, me rendrais-tu un service? » »« Bien sûr, Frère Branham. » J'ai ajouté, « Je me demande si tu ne pourrais pas parler à ma place. » Il a répondu, « Oh, je ne pourrais pas faire cela. » Pourquoi? Il demandait, « Je n'ai qu'une instruction primaire. » Je dirais, « Empire » au lieu d'un « Empire », c'est-à-dire, vois-tu, je ne sais pas comment m'exprimer devant eux. Il y aura là l'association pastorale du Grand Chicago. Comment vais-je parler devant eux avec mon instruction primaire? Tommy, toi, tu es un docteur en théologie. Tu saurais comment parler, tandis que moi, pas. Je dis, Frère Bonhomme, je ne pourrais pas faire cela. J'ai demandé pourquoi. Je t'ai rendu beaucoup de services. Je l'ai dit d'une façon directe. Et Frère Carlson dit, oh, Frère Bonhomme, il ne pourrait pas faire cela. Pourquoi, dis-je? Eh bien, j'ai ajouté, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, mais vous ne voulez pas me le dire. Ils m'ont tendu un piège. Frère Carlson, vous savez, cette salle, l'hôtel, où nous avons eu l'autre banquet, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit, vous ne l'allez pas l'avoir. Il répliqua, eh bien, Frère Banane, nous avons déjà versé un rencontre là-dessus. J'ai dit, peu importe ce que vous avez fait, cela n'aura pas lieu. C'est une salle de couleur verte, alors que nous trouverons dans une salle de couleur brune. Je me trouverai dans un coin. Le docteur Needles s'assiera à droite. Cet homme de couleur et sa femme s'assieront ici, et tel. Il y aura prêtre Boutis assis à mon extrême droite, et voici comment ils seront vêtus. Et j'ajoutais, tu sais que c'est, Tommy, tu sais que l'association personnelle du camp Chicago va me lancer un défi au sujet du baptême au nom de Jésus-Christ. L'association pastorale du Grand Chicago va me lancer un défi au sujet de l'évidence du Saint-Esprit qui n'est pas le parler en langue. Ils vont me lancer un défi au sujet de la semence du serpent et de la prédication de la grâce. Tommy me jeta un coup d'œil et dit, « Bonté divine, je pense alors que je n'irai pas. » J'ai dit, « Ou bien, viens aussi. » Le jour suivant, l'homme qui avait pris la compte, je le lui rendis en disant, nous avons un orchestre qui était prévu. Nous l'avons oublié parce que nous avons égaré l'affiche. Nous avons dû donner la salle à l'orchestre. Ainsi, vous ne pouvez pas l'avoir. Nous sommes allés au Town and Country. Lorsque je suis entré dans la salle ce matin-là, ils s'y trouvaient tous. Je me suis assis derrière le pupitre après le déjeuner. J'ai attendu tous en les regardant. Nous avons eu le déjeuner dans une pièce et il y avait là l'association pastorale du Grand Chicago. Je regardais autour de moi. Chacun s'est présenté comme docteur en philosophie, en droit, en PhD. Je suis simplement resté assis. Je les ai écoutés jusqu'à ce qu'ils aient fini. Alors, Frère Carlson se leva et dit, « Messieurs, vous connaissez tous Hank Carlson? » Eh bien, nous l'avons ici sur bande. Si vous voulez acheter la bande, elle est ici, les frères l'ont. Il dit, messieurs, je vous présente maintenant Frère Branham. Vous êtes peut-être tous en désaccord avec lui au sujet de sa doctrine. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a de ça trois jours, nous étions assis ensemble. Et si cet homme ne m'a pas dit tout ce qui arriverait ce matin, c'est que je ne suis pas ici maintenant. Il m'a dit que vous étiez tous sur le point de le questionner sur sa doctrine. Il m'a dit que je devrais décommander cet autre endroit et venir ici. Il m'a dit exactement où le docteur Maine et ces personnes seraient assises et les voilà. Et vous n'êtes peut-être pas d'accord avec lui, mais je dois vous dire une chose, il est courageux dans ce qu'il pense. Maintenant, Frère Branham, je vous laisse la parole. J'ai dit, avant de commencer, j'ai lu ce que j'ai lu ce matin, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. J'ai dit, maintenant, réglons ceci. Vous parlez tous que vous êtes des docteurs en théologie et je me tiens ici tout seul. Si c'est exact, vous voulez me questionner sur le baptême au nom de Jésus, c'est pourquoi nous allons commencer avec cela. Je veux que l'un de vous apporte sa Bible, se tienne ici à mon côté à propos de tout ce que j'ai enseigné. J'ai ajouté, tenez-vous ici à côté de moi et avec la parole de Dieu, prouvez le contraire. J'ai attendu et personne n'a dit quoi que ce soit. J'ai dit, je demande que l'un de vous vienne se tenir à côté de moi. Qu'y a-t-il avec vous? Alors cessez de m'importuner si vous avez peur de vous tenir ici près de moi. Ce n'est pas de moi qu'ils ont peur, c'est de cet ange du Dieu Tout-Puissant. Car ils savent que s'il peut m'annoncer quelque chose d'avance, il était plus intelligent que je ne croyais. Ils savaient qu'il était préférable de ne pas se tenir là. Vous savez que vous êtes trouvé aussi? Vous savez, vous êtes trouvé aussi dans cette situation semblable, mais ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Si c'est si grand et qu'ils savent que c'est si vrai, je l'ai mis sur bande, je suis prêt que ce soit, ou en parler chrétiennement avec n'importe quel frère. Je n'ai pas argumenté avec qui que ce soit. Je veux que vous veniez prouver le contraire de cela par la parole, non pas par vos manuels ou parce qu'a dit le docteur tel et tel ou le saint tel et tel. Je veux savoir ce que Dieu a dit. C'est la base. Je veux savoir ce que c'est. S'ils ne le font pas. Maintenant, regardez. Lorsque c'est le moment que les sept voix, et c'est le moment lorsque le livre est terminé, que les sept voix d'Apocalypse 10 soient révélées, maintenant faites attention, écoutez bien. Je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps, je sais que vous êtes fatigué, c'est 10h-10. Écoutez attentivement, je sais que vous êtes debout et que vous changez tous de position. Je serai content lorsque l'église sera réparée, nous n'aurons plus besoin d'être serrés, nous pourrons alors prendre tout le jour pour prêcher. Maintenant remarquez, notez ceci. Les sept voix étaient des tonnerres. Une déflagration. Ô Dieu, aide-nous. Si j'ai tort, Seigneur, pardonne-moi. C'est à vous que je pose maintenant la question. Il y a eu un coup de tonnerre. Quand cette voix se fit entendre, avez-vous remarqué que lorsque les sept sceaux qui suivaient les sept âges de l'Église, quand le premier sceau fut ouvert, il y eut un bruit de tonnerre? Quand le premier sceau dans le livre fut ouvert, il y eut un bruit de tonnerre? Alors le premier sceau à l'extérieur du livre ne s'ouvrait-il pas de la même manière? Dieu ne change pas son programme. Lisons dans Apocalypse 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens! » Or, il n'y eut jamais eu d'autre tonnerre et lorsque le dernier sceau fut ouvert, il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Mais lorsque le premier sceau fut ouvert, il y eut un coup de tonnerre. Ô Église, cela se pourrait-il? Sommes-nous déjà aussi loin? Réfléchissez, mes amis. Peut-être, j'espère que ce n'est pas ça, mais si c'était ça, qu'était cette déflagration? Devant Dieu et cette Bible ouverte, je ne mens pas. Une déflagration qui secoua la terre. Et lorsque le premier des sept sceaux fut ouvert dans la Bible, il y eut une déflagration, juste une, qui secoua tout. Un tonnerre. Alors, si les sceaux qui sont au dos s'ouvraient, n'y aurait-il pas aussi un bruit de tonnerre? Je ne sais pas, je ne peux le dire. Il y eut un tonnerre, le premier sceau. Le sceau était un tonnerre. La trompette était ouverte à ce moment-là. Et la trompette sonna bien sûr à la Pentecôte. Je ne vais pas entrer là-dedans. Si la vision était scripturaire, la vision dont je parle maintenant que j'ai eue samedi matin, il y a une semaine, si, maintenant souvenez-vous, si la vision était scripturaire, elle doit être interprétée par l'Écriture ou être une continuation de la même Écriture. J'attends que cela pénètre bien. Si ce que j'ai vu, ce que c'était, je ne sais pas, mais je meurs de peur. Ne reste-t-il plus rien? Sommes-nous à la fin? Souvenez-vous, cet ange a dit que lorsque ceci arriverait, il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Je me demande si nous comprenons vraiment ceci. Vous dites, eh bien, il semble que cela devrait se faire entendre à travers. Frère, il vient à la minute où vous n'y pensez pas. Vous l'entendrez pour la dernière fois. Maintenant, est-ce clair? Quand le premier sceau fut ouvert, le sceau qui était à l'intérieur du livre, la proclamation de ces mystères, la justification, la sanctification de l'Église catholique romaine, les protestants, tous ces points suspens dans la parole de Dieu qui ont laissé leur petite bataille, sont réunis et expliqués par le septième ange quand il vient, voyez-vous? Et quand il termine, ces sept tonnerres font entendre leur voix. Et Jean commença à écrire, mais il lui dit, « Ne l'écris pas, celle-là. » Le premier des sceaux à l'intérieur du livre fut ouvert avec un tonnerre. Si c'est l'Écriture, cela peut être seulement. Si quelque passage de l'Écriture est tout ce qui est censé venir de la Bible, par exemple, vous ne pouvez pas me dire qu'il existe un purgatoire et des choses comme cela. Il n'y a aucune écriture dans la Bible pour soutenir cela. Vous ne pouvez pas me parler de ces choses comme du livre des Maccabées qui est peut-être bien, de ce quatrième livre de Daniel où un ange l'a saisi par les cheveux et posé par terre. De telles choses ne sont jamais arrivées dans la Bible. De même que lorsqu'il est dit que Jésus Nazareth aurait fait un petit oiseau d'argile, lui aurait mis des pattes et aurait dit « Envole-toi, petit oiseau », c'est une absurdité. Il n'y a rien dans la Bible pour soutenir cela. Ainsi, cela ne berne pas les traducteurs. Dieu a veillé à ce que les traducteurs n'ajoutent même pas ces dogmes et ces absurdités. Les frères Maccabées étaient peut-être de braves gens, je ne dis pas le contraire, mais ce n'était pas scriptural. Voici la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne pouvait y être ajouté ou retranché. Et si nous mettons ça là-dedans, cela ne s'accorde pas avec le reste de l'Écriture. Il y a 66 livres dans la Bible et pas un seul mot ne contradira un autre. Alors, c'est une continuation en vue de ces dernières trompettes qui doivent sonner ou de ces sept derniers tonnerres qui viennent, les mystères, les derniers sceaux, cela devrait se comparer au reste de l'Écriture. Et si les premiers à l'intérieur s'ouvrent avec un coup de tonnerre, il en sera de même pour les seconds qui sont au dos. Observez ce qui arrive. Si la vision était scripturaire, alors elle doit être interprétée par l'Écriture ou être une continuation de la même Écriture. Remarquez, Apocalypse 3 et 4, sept tonnerres. Sept tonnerres! Puis regardez, versets 3 et 4. Et puis quoi? Un serment de cet ange puissant disant que le temps était terminé. Voyez, lorsque ces tonnerres firent entendre leur voix, alors l'ange, pensez-y, un ange enveloppé d'une nuée et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, eh bien, vous savez qui c'est, a posé un pied sur la terre et un sur la mer, puis il levait sa main et jura que lorsque ces sept tonnerres auraient fait entendre leur voix, il n'y aurait plus de temps. Si le ministère des mystères de Dieu est terminé, si c'était la venue de ces sept mystères, dans une humble petite église comme la nôtre et que le Tout-Puissant soit venu et ait considéré l'humble condition de son peuple? Ou bien, je ne pense pas. Ce n'est peut-être pas ça, mais si c'était ça, alors le temps est arrivé au bout. Y avez-vous pensé? Soyez sérieux. Cela peut être plus tard que nous pensons. Ces étoiles qui forment leur constellation là-bas, cet ange qui vient et dit, comme Jean fut envoyé pour terminer l'Ancien Testament et introduire Christ, ton message va régler les points en suspens et introduire le Messie juste avant sa venue. Le message des derniers jours. Remarquez, l'ange puissant jura par un serment qu'il n'y aurait plus de temps. Maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais pensez à ceci une minute. Maintenant, écoutez, cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, les sept autres anges des sept églises étaient des messagers terrestres. Mais cet ange, tout le message est terminé. Le septième ange clôture le tout. Cet ange vient non pas vers la terre, il n'est pas un homme de la terre, comme les messagers aux anges de l'Église. Ça, c'est terminé. Mais cet ange apporte l'avis suivant. Et ange veut dire messager. Et il descend du ciel, enveloppé de cette colonne de lumière, de cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et un arc-en-ciel est une alliance. C'était Christ, avec un pied sur la terre et un sur la mer. Et il jura qu'il n'y aurait plus de temps. Messieurs, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C'est à vous que je pose la question. Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet ange, il est dit, à l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange de l'église d'Éphèse, des messagers de la terre. Voyez-vous? Des hommes, des messagers, des prophètes, envoyés à l'église. Mais celui-ci n'est pas venu de la terre, il est venu du ciel, parce que le mystère est entièrement terminé. Et quand le mystère fut terminé, l'ange dit, il n'y aura plus de temps, et les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement? Est-ce cela? Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs? Quelque chose est-il sur le point d'arriver qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront changés? Puis-je vivre pour voir cela, Seigneur? Et si c'est si proche que je le verrai? Est-ce cette génération? Messieurs, mes frères, quelle heure est-il? Où en sommes-nous? Regardons la montre. Le calendrier, pour voir à quelle date nous vivons. Israël est en Palestine, dans sa patrie. L'étendard portant l'étoile à six pointes de David, d'il y a 2000 ans. Oui, il y a environ 2500 ans. Le plus ancien drapeau flotte. Israël est de retour dans sa patrie. Quand le figuier bourgeonne, cette génération ne mourra pas, ne passera pas, que tout cela n'arrive. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que les prophètes ont prédits. Les jours des gentils sont comptés. Ils sont remplis d'horreur. Retourne, ô dispersé, à ce qui t'appartient. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'esprit, vos lampes nettoyées et claires. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu, que Jésus le Christ est notre Dieu. Vous savez que c'est la vérité. Mais nous marcherons où les apôtres ont marché, car le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'Esprit, vos lampes nettoyées et claires. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Cela peut être plus proche que vous le pensez. Cela m'a fait peur. Oh, je n'ai pas fait assez. Où en sommes-nous? Il n'y aura plus de temps. Il annonce que le temps est terminé. Qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il? Cela pourrait-il en être ainsi, mes frères? Réfléchissez sérieusement. Si c'est le cas, alors la pyramide est coiffée par les sept tonnerres. Vous souvenez-vous du message de la pyramide? C'est la pierre faîtière. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé après que nous ayons ajouté à notre foi la droiture, la piété, la foi, etc. Nous avons continué à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons ces sept choses. Et la septième, c'était l'amour qui est Dieu. Et c'est ainsi qu'il fait l'individu, qu'il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Alors, si c'est ainsi, il y a eu sept âges de l'Église dans lesquels il a proclamé les messages. Ils ont combattu afin de ramener. Maintenant, la pierre faîtière vient pour coiffer l'Église. Est-ce que cela veut dire que les tonnerres, mes frères? Messieurs, est-ce là où nous en sommes? Junie, je veux prendre votre rêve. Regardez. Junior, avant que la pyramide fût prêchée, des mois avant cela, eut ce songe. Vous dites, qu'est-ce qu'un rêve a à faire? Nebuchadnezzar a eu un songe que Daniel interpréta, qui annonçait le commencement de l'âge des nations et le moment qu'il finirait. Cela s'est passé exactement ainsi. Pas la moindre chose n'a failli. Avez-vous remarqué? Ce qui était écrit sur les rochers, j'étais en train de l'interpréter pour eux. Ils étaient enthousiasmés. C'est le mystère de Dieu qui n'a pas été compris pendant des années. Pourrait-ce être cela? Remarquez encore, d'une façon mystérieuse, nous avons ramassé dans l'air un outil tranchant qui ouvrit le sommet. Et il y avait là-dedans du granit blanc. Mais ça ne fut pas interprété. Il n'y avait pas de lettres. Je n'ai pas interprété cela, Junior. Je l'ai simplement regardé. Et j'ai dit aux frères, regardez ceci. Et cela s'accomplit ce soir. Pendant qu'il étudiait cela, je suis parti discrètement en direction de l'Ouest. Dans quel but? Peut-être pour recevoir l'interprétation de ce qui est écrit dans le sommet de ceci. Cela se pourrait-il? Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je m'élève dans l'air aussi haut que ce bâtiment, et cette constellation d'anges, ces sept anges en forme de pyramide, sont ces tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il? C'est entièrement interprété, cela. Son rêve, c'est tout à fait fini. Selon la parole de Dieu, le septième messager terminera. Le septième message sera terminé. Puis les sept tonnerres. Il vit la pierre faîtière retourner. Or, de nombreuses personnes ne savent même pas ce qu'il y a sept sceaux qui doivent être révélés. J'ai lu beaucoup de livres que des hommes ont écrits sur l'Apocalypse. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ils ont passé par-dessus. Mais il vous a été dit que c'était là. Je ne sais pas ce que c'est. Pourrait-ce être cela? Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Si c'est cela, nous sommes dans une heure sérieuse. Maintenant, une minute. Regardez. Si c'est cela et que le mystère qui était écrit dans ces rochers était terminé, je suis content d'être assis dans une église avec des gens pieux à qui Dieu peut donner un songe. Je suis heureux de dire à ces hommes et à ces femmes qui vont à l'église de Frère Junior, à cette église-ci, dans celle de Frère Neville et dans les autres, qu'il y a des personnes assises dans cette assemblée qui, comme le dit la Bible, ont des songes dans les derniers jours. Et le voici, regardez-le. Cela se compare avec la parole. Ne sachant rien à ce sujet, une déflagration se fait entendre. Et sept anges sont venus de l'éternité. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cela n'a pas été dit. Ce peut que je doive premièrement aller là-bas avant de trouver ce que c'est. Je ne sais pas. Ce n'est peut-être même pas ça. Je ne sais pas. Je dis simplement, et si c'était ça, si c'est scripturaire, cela semble en être très proche. Ne pensez-vous pas? Regardez encore. La pierre faîtière ne fut pas interprétée, voyez-vous? Aller à l'ouest et revenir. Où est-ce ceci? Si c'est sept anges dans cette constellation qui sont venus vers moi, lorsque je vous rencontrerai le jour de la résurrection, vous verrez que je ne mens pas. Dieu est mon juge. Ou est-ce ce second point culminant dont j'ai parlé l'autre jour? Y a-t-il quelque chose qui va venir pour l'Église? Je ne sais pas. Je pourrais rester un peu là-dessus, mais je vais continuer. Cela se pourrait-il que le puissant tonnerre ou le septième ange dans cette constellation qui en contenait sept, formant une pyramide, soit trois côtés de chaque côté et un au sommet et venant de l'éternité, cela se pourrait-il? Est-ce le mystère des sept tonnerres qui ramènerait la pierre fêtière? Vous savez, la pyramide n'eut jamais de fête. La pierre fêtière doit encore venir. Elle a été rejetée. Cela se pourrait-il, frères et sœurs? Où est ce troisième poule dont il m'a parlé il y a 3 ou 4 ans? Le premier poule, vous vous souvenez ce qui est arrivé? J'ai essayé de l'expliquer, il m'a dit, ne le fais pas. Le deuxième poule, il a dit, n'essaie pas. Et j'ai quand même tiré. Vous souvenez-vous? Vous en souvenez tous? C'est sur le banc, n'est-ce pas? Puis il me dit, maintenant, un troisième poule va venir, mais n'essaie pas de l'expliquer. Vous voyez comment j'aborde ceci ce soir? Je ne sais pas. Mais je me sens lié par le devoir envers mon Église de dire quelque chose. Tirez-en vos propres conclusions. Sera-ce le mystère qui ouvrira, qui amènera Christ, qui apportera une puissance à l'Église? Vous voyez, nous avons déjà, nous croyons à la repentance, au baptême, au nom de Jésus-Christ. Nous croyons au fait de recevoir le Saint-Esprit. Nous avons des signes, des prodiges, des miracles, le parlant en langue et les choses qu'avait l'Église primitive. Et franchement, davantage a été fait ici, dans cet unique petit groupe, par le tout petit ministère que nous avons ici, ce qui est écrit dans le livre des Actes. Qu'en est-il de ce qui s'est passé dans le monde entier, voyez-vous? Il y en a davantage que ce qui est écrit dans le livre des Actes. C'est du même genre, la résurrection des morts. Souvenez-vous, il n'y a eu qu'environ 3 personnes ressuscitées des morts par Jésus-Christ. Nous avons les certificats médicaux pour 5. Voyez-vous? Les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Je sais que la version du roi Jacques dit de plus grand, donc vous ne pourriez pas faire quelque chose de plus grand, mais plutôt davantage. Il était dans une seule personne à ce moment-là, maintenant il est dans l'Église entière. Voyez-vous, vous en ferez davantage, car je m'en vais au Père. Si c'est le troisième pôle, alors il y a un grand ministère devant nous. Je ne sais pas. Je ne peux dire. Je ne sais pas. Observez le troisième pôle. Arrêtons-nous à cela une minute. Dans la vision, le premier vol était composé de petits oiseaux messagers. C'était lorsque nous avons commencé. Cela a grandi du simple fait de prendre la personne par la main. Et vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Si tu es sincère, le moment arrivera où tu connaîtras les secrets même de leur cœur. Combien se souviennent quand cela a été annoncé ici et dans tous les pays? Et cela est-il arrivé? Exactement. Puis il a dit, ne crains pas, je serai avec toi, voyez-vous, et cela continuera. Or, le premier poule, c'était de très petits oiseaux, ces vols. Ils ont continué pour aller rencontrer le temps, rencontrer la venue du Seigneur, le premier message. La deuxième fois, c'était les secrets du cœur. Premièrement, c'était prendre une personne par la main et lui dire ce qu'elle avait. Puis leur péché fut révélé et il leur fut dit ce qu'ils devaient faire. Est-ce vrai? Alors, cela est arrivé parfaitement comme Dieu l'a dit et vous en êtes tous témoins, ainsi que le monde et l'Église. Et quand j'ai dit, j'ai vu un ange et que c'était un feu de couleur émeraude qui brûlait, les gens ont ri, ils ont dit, Billy, sois raisonnable, l'œil scientifique et magique de la caméra l'a pris en photo. Je ne mentais pas. Je disais la vérité. Dieu l'a confirmé. J'ai dit, il y a une ombre noire, c'est la mort. C'est noir, cela est blanc. L'un est la vie et l'autre est la mort. Le voilà sur la photographie là derrière. Comme Georgie Lacey l'a dit, l'œil mécanique de cette caméra ne prendra pas de la psychologie. Me suivez-vous? Remarquez, le premier petit vol, la main, le second était plus grand, puis blanc, les colombes, le Saint-Esprit révélant les secrets du cœur. Et le troisième vol, c'était des anges. Non pas des oiseaux, des anges. Et c'est la fin des temps. Tout est là. Frère, sera-ce le temps? Est-ce ce temps-là? Maintenant, écoutez très attentivement et n'interprète pas mal ceci. Je veux vous demander quelque chose. Revenons en arrière une minute. L'Église sait que c'est la vérité. Le monde scientifique sait que c'est la vérité. Des gens sont ici ce soir et beaucoup qui sont encore en vie se tenaient au bord de la rivière lorsque cette voix fit entendre ces paroles. Comme Jean fut envoyé avec un message pour la première venue, ceci est également le second message pour la seconde venue. Vous en souvenez-vous? Et si c'est terminé, que fit Jean? Jean fut celui qui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est lui! Cette heure est-elle arrivée, mes frères? Je ne dis pas que c'est le cas, je ne sais pas, mais je vous pose la question. Je veux que vous réfléchissiez. Où sera-ce le temps où ce sera de nouveau? Voici l'agneau de Dieu, ou le temps de Malachikat pour ramener le cœur des enfants à la foi de nos pères. Sera-ce une déflagration telle que des choses puissantes se produiront au point d'affermir l'Église qui est allée en descendant et qui ne peut pas comprendre les mystères de Dieu? Quand ils verront le souffle de cette puissante déflagration, cela ramènerait-il leur cœur à ceux des pères, comme l'annonce la Bible? Ou alors, est-ce le message déjà passé qui aurait dû faire cela? Je ne sais pas. Messieurs, c'est le signe de la fin des temps? Ou bien est-ce le signe que c'est terminé? Ça me paraît très scriptural. Je ne sais pas. Il y avait là ces anges. Il y a eu une déflagration, comme un coup de tonnerre qui secoua la terre entière. Dieu sait que je dis la vérité. Souvenez-vous simplement, quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas ce que c'est, mais cela pourrait-il être ceci? C'est la raison pour laquelle je dis, préparez-vous. Prions. Priez comment? En prenant notre position dans l'armée de ces croyants et en nous préparant, car cela peut être plus tard que nous pensons. Vous me connaissez, et que je sache, je ne vous ai jamais dit de mensonge. Comme Samuel leur a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Je vous dis maintenant que je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux dire ce que c'est. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire la vérité. J'ai peur. En tant que votre frère, je suis effrayé depuis samedi dernier. C'est peut-être la fin des temps. C'est peut-être le temps où les arcs-en-ciel vont traverser le ciel et qu'un avis va venir du ciel disant « Il n'y a plus de temps ». Si c'est cela, préparons-nous, mes amis, à rencontrer notre Dieu. Maintenant, amplement de nourriture a été déposée. Utilisons-la. Utilisons-la maintenant. Et avec moi, de cette estrade, je crie à Dieu. Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers moi. J'ai essayé de vivre au mieux de ma connaissance. J'ai essayé d'apporter le mieux possible les messages à partir de la parole de Dieu. Dieu connaît mon cœur. Mais lorsque cette constellation d'anges a balayé cet endroit, je fus paralysé. J'ai même perdu pendant longtemps toute sensibilité. Même longtemps après, en essayant de marcher à travers la chambre, je me suis senti comme si ma moelle épinière et le long de mon cou étaient parfaitement paralysés, sans aucune sensibilité. Je ne pouvais sentir à l'intérieur de mes mains. Je suis resté étourdi tout le jour durant. Je suis simplement allé dans la chambre et je me suis assis. Dimanche, je suis venu ici pour parler. J'ai essayé de m'en débarrasser en parlant. Lundi, c'était de nouveau là et c'est ici maintenant. Je ne sais pas. Messieurs, je ne sais pas. Je suis simplement honnête avec vous en tant que mes frères. Je ne sais pas. Est-ce le moment? Le mystère est-il entièrement terminé? La proclamation est-elle terminée? Est-ce vraiment ces sept tonnerres qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le petit groupe qui s'est réuni recevra une foi pour l'enlèvement afin d'être enlevé quand il viendra? Car nous serons changés aussi vite que sont venus ces anges, en un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble avec eux, enlevés avec eux, ceux qui dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ma prière est celle-ci. Ô Dieu, si c'est ainsi, je ne sais pas, Seigneur, je dis simplement cela à l'Église. Si c'est ainsi, Seigneur, prépare mon cœur. Prépare-nous, Seigneur, pour cette grande heure que durant toute l'histoire du temps, tous les prophètes et les sages ont entendu. Seigneur, je ne sais que dire. J'aurais peur de dire, ne viens pas, Seigneur. Je me sens honteux de moi-même quand je regarde et que je vois le monde dans la condition où il est et que je n'ai pas fait davantage à ce sujet. J'ai honte de moi-même. S'il y a un lendemain, Seigneur, oins mon cœur, oins-moi d'une façon plus grande. Père, afin que je puisse faire tout ce qui est possible pour en amener d'autres à toi, je suis à toi. Je me sens comme Ésaïe dans le temple ce jour-là, quand il vit les anges qui volaient d'un coin à l'autre, avec des ailes sur leur face, sur leurs pieds, se servant d'autres pour voler. Il disait, « Saint, Saint, Saint! » Ou comme ce jeune prophète fut secoué, il commençait alors un peu à prendre de l'âge. Et quand il vit cela, bien qu'il ait eu des visions, il s'écria, « Malheur à moi! » Père, peut-être me suis-je senti un peu comme ça lorsque je vis ces anges l'autre soir, ou plutôt l'autre matin. Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple impur. Père, purifie-moi et me voici, envoie-moi, Seigneur. Quoi que ce soit, alors, je me tiens à cette chair où je me suis tenu pendant 30 ans. S'il y a quelque chose, Seigneur, que tu veux que je fasse, me voici. Je suis prêt, Seigneur. Puis-je trouver grâce à tes yeux, car je te le demande humblement. Je prie pour le petit troupeau que le Saint-Esprit m'a chargé de surveiller et de nourrir. J'ai fait tout ce que je savais faire, Seigneur, pour les nourrir du pain de vie. Comme l'indiquait cette vision il y a de nombreuses années, qui montrait ce grand rideau à l'ouest et une montagne du pain de vie. Ce petit livre intitulé « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste » et voici la chose qui arrive et qui est révélée juste devant nous. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre que toi. Reçois-nous, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Je me repens de toute mon incrédulité, de toute mon iniquité. J'intercède sur l'autel de Dieu. Alors, je viens ce soir avec cette petite église devant moi. Par la foi, nous partons de ce bâtiment dans un enlèvement, alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, autour du trône de Dieu. Nos cœurs ont été réchauffés de nombreuses fois par les choses que nous t'avons vues faire et par les mystères que nous t'avons vus dévoiler. Mais Seigneur, ce soir, je suis là. Malheur à moi! Comme Jacob, quand il vit ses anges qui descendaient et montaient l'échelle, il dit que ce lieu est redoutable. Car c'est ici la maison de Dieu, c'est là que fut établi Bethel. Oh Dieu, les gens ne comprennent pas qu'ils pensent qu'il devrait y avoir tellement de joie. Mais Seigneur, quelle lassitude, quelle chose redoutable pour un être humain d'entrer dans la présence d'un grand et puissant être céleste. Je te prie de pardonner ma petite église ici, que tu m'as envoyé conduire et guider. Bénis-les, Seigneur. J'ai agi d'après ce qu'on dit, les visions et les songes, au mieux de ma connaissance. J'ai amassé pour eux, Seigneur, toute la nourriture que j'ai pu. Quoi que ce soit, Seigneur, nous sommes à toi. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Sois miséricordieux envers nous, pardonne-nous et donne-nous d'être des témoins aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Puis, lorsque la vie sera terminée, reçois-nous dans ton royaume, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chacun de vous, Purifiez tout votre cœur. Rejetez tout, tout fardeau. Gardez-le hors de votre chemin. Ne laissez rien vous importuner. N'ayez pas peur. Il n'y a rien dont il faille s'effrayer. Si Jésus revient, c'est un moment après lequel le monde entier a soupiré et qu'il a réclamé. Si c'est quelque chose qui est sur le point de se manifester maintenant, comme par exemple la venue d'un nouveau don, ce sera merveilleux. Si le temps est venu pour que les sept tonnerres soient révélés à l'Église, comment partir? Je ne sais pas. J'ai simplement déclaré ce que j'ai vu. Oh là là, quel moment! C'est un temps de réflexion sérieux et solennel. Si c'est le moment pour moi de partir, je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Quand tu as fini, viens, Seigneur Jésus. Où que cela puisse être, ou à quel moment que cela puisse être, je suis à lui. Je ne dis pas que je désire partir, non. J'ai une famille à élever, j'ai l'Évangile à prêcher, mais cela dépend de sa volonté et non de la mienne. C'est sa volonté. Je ne sais pas. Je vous déclare simplement ce que c'est, quoi que ce soit. Dieu l'accomplira. Mais je vous dis ce que j'ai vu et ce qui est arrivé. Ce que cela signifie, je ne sais pas. Mais messieurs, cela peut-il être la fin? Les personnes sont présentes maintenant, les six personnes qui ont eu ces songes. N'est-il pas étrange qu'il n'y en ait pas eu sept? Est-ce très étrange que six ont conduit jusque-là, puis immédiatement cette vision? Les personnes sont ici. Frère Jackson, ici, en était une. Frère Parnell en était une autre. Sir Collins, une autre. Sir Steffi, une autre. Frère Robinson, une autre. Et Frère Beeler, une autre. Et le Père Céleste sait qu'il n'y a pas un songe de plus se rapportant ceci. À la fin de ce septième songe, ce qui était sur Sir Steffi, immédiatement la vision apparut. Voyez? Voyez pourquoi je pars? Voyez pourquoi je dois partir, je dois le faire. Mes amis, ne regardez pas à moi, je suis votre frère. Ne faites pas attention à moi, car je ne suis qu'un mortel. Je dois mourir comme n'importe qui d'autre. Ne m'écoutez pas, mais écoutez ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit est le message. Ne faites pas attention au messager, observez le message. Gardez les yeux non pas sur le messager, mais sur le message, ce qu'il dit. C'est la seule chose à laquelle il faille regarder et que Dieu nous aide. C'est ma prière. Je n'ai pas voulu venir vous dire ceci, mais je ne voulais pas non plus vous cacher quoi que ce soit. Laissez-moi vous dire. Autant que je sache, je vais partir dans deux ou trois jours qui viennent, mercredi matin pour Tucson. Je ne vais pas à Tucson pour prêcher. Je ne vais pas là pour prêcher. Je vais à Tucson pour établir ma famille et mettre les enfants à l'école, puis devenir un vagabond. Je vais à Phoenix pour tenir cette petite série de réunions, ce qui sera probablement que de petits messages. Et peut-être, et je pense qu'ils veulent que je prêche un soir à la convention. Ils n'ont rien dit à ce sujet. Ils ont juste dit que j'y serais. Voyez-vous, cela ne me donne pas une très bonne impression. J'ai aussi une parole, ainsi dit Seigneur, pour Frère Shakarian. Je ne sais pas ce qu'il en fera, mais j'ai un mot à lui dire. Je ne sais pas ce qu'il en fera. C'est son affaire. Avez-vous remarqué la dernière voix? Ce n'est pas censé être une organisation, mais ils ont déclaré leur credo. Si c'est une organisation, alors je m'en vais. Je suis en dehors d'une telle chose. Maintenant, je suppose que Frère Argenbright et Frère Roll, qui est un diplomate de Washington, ayant servi sous sept présidents, doivent être en Afrique. Frère Rowe, Frère Argenbright et moi, nous irons bientôt en Afrique pour des réunions en Afrique du Sud et au Tanganyika avec Frère Bose, et nous continuerons en passant probablement par l'Australie et nous reviendrons de ce côté-là si le Seigneur n'en décide pas autrement. Mais avant de partir, je reviendrai ici. Puis lorsque je reviendrai de là, si Dieu ne m'a pas parlé d'une autre manière, je vais prendre ma famille et me rendre vers Anchorage en Alaska. C'est maintenant le sud-ouest et ce sera le nord-ouest. Je les laisserai là durant l'été pendant qu'il fait si chaud à Tucson, si bien que cela vous grille la peau, je ne pense pas qu'ils puissent le supporter. Ils seraient si nostalgiques et démoralisés. Nous ne vendons pas notre maison, elle reste là avec les meubles, je ne sais que faire. Puis, dès que l'été est terminé, je veux, Dieu voulant, quitter l'Alaska et venir autour de Denver, dans le centre-ouest. J'irai dans le sud-ouest, nord-ouest et centre-ouest, criant, « Oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Entre-temps, autant que je sache, chaque message sera prêché ici dans ce tabernacle. C'est ici que seront les bancs, c'est ici que se trouve le quartier général. Je n'ai pas l'intention de rester dans l'ouest avec ma famille. Je vais chercher jusqu'à ce que je trouve ce que Dieu veut que je fasse. Si cette chose n'est pas réglée cette année, alors l'année prochaine, sans eau ni nourriture, j'irai marcher dans le désert et j'attendrai jusqu'à ce qu'il m'appelle. Je ne peux pas continuer ainsi. Vous devez être poussé à bout. Vous devez en arriver au point où vous voulez connaître la volonté de Dieu et comment vous pouvez faire sa volonté si vous ne la connaissez pas. Je cherche donc maintenant à découvrir ce qu'il en est. À la suite de cette vision que vous avez vue, je vais voyager comme missionnaire et évangéliste jusqu'à ce qu'il vienne cet appel. Vous souvenez-vous du premier, lorsque nous avons posé cette pierre angulaire? « Fais l'œuvre d'un évangéliste », a-t-il dit. Il n'a pas dit « Tu es un évangéliste », mais fais-en l'œuvre, peut-être jusqu'à ce que le temps vienne pour quelque chose d'autre, pour un changement de travail. Cela peut être une autre chose, je ne sais pas. L'aimez-vous? Soyez vraiment sûr de cela. Soyez-en vraiment sûr. Ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Oh, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, à attendre. Je l'aime et je sais que vous l'aimez aussi. Maintenant, demain soir, je pense que j'ai rendu cela suffisamment clair, n'est-ce pas? Aussi clair que je peux. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais dire. Et si quelque chose m'est révélé, je vous le dirai rapidement. Je sais que vous êtes curieux de savoir, et moi aussi. Je ne sais pas ce que cela veut dire, je ne sais pas où je vais, ou ce qui va arriver, je sais. Je suis simplement, tout ce que je sais, c'est que je pars par la grâce de Dieu. Alors, il me dira peut-être ce qu'il en est quand j'arriverai là-bas. Mais ce que je dois faire maintenant, c'est partir. Je ne serai peut-être pas là-bas 2 semaines, que je me retrouverai déjà à un autre endroit, et peut-être de retour ici, c'est vrai. Je ne sais pas. Cette vision impliquait ma femme et mes enfants, et la chose qu'il y avait, c'était que j'étais dans un chariot couvert, et à la minute où j'entrais là-dedans, j'étais dans ma voiture, break. Et c'est ainsi que nous allons partir dans 2 jours environ, ne sachant pas où nous allons, ce que nous allons faire une fois là-bas, mais partant simplement. Dieu est étrange pour nous, parce que ses voies sont au-delà de toute explication. Il veut l'obéissance. Où vas-tu? Ce n'est pas ton affaire. Continue simplement à marcher. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça ne te regarde pas, toi aussi. Suis-moi. Continue simplement à marcher. Où m'arrêterai-je? Qu'est-ce que ça peut te faire? Continue simplement à marcher. Ainsi, je pars au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Il est ma vie. C'est toute ma raison de vivre. Parce qu'il m'aima le premier. Et acquis mon salut sur le bois du calvaire. Messieurs, ce temps est-il arrivé? Mm-hmm. Alors que nous le chantons de nouveau, serrez la main à la personne à côté de vous et dites, frère ou sœur, priez pour moi. Je prierai pour vous. Priez pour moi, frère Neville. Je le ferai, frère. Priez pour moi, frère, avec beaucoup de sincérité. Priez pour moi, frère. Priez pour moi. Priez pour moi. Levons maintenant les mains vers lui. Un véritable amour. Parce qu'il m'aima le premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Oui, je l'aime. De tout mon cœur. Continue, frère Neville. Je pars. Annonce lors de la réunion. Continue à chanter « Je l'aime » avec l'Assemblée et termine ensuite la réunion.